Bonjour! Bonjour les amis, bonjour tout le monde! Bienvenue! Comment ça va? Comment ça va en ce samedi? Ici il flotte hein, à Paris. Il flotte comme hier soir. Et d'ailleurs j'ai appris qu'ils ont dû annuler la première journée des épreuves de skate à la Concorde à cause de la pluie. Oh non, Joseph Garbaccio! Moi, je voulais soutenir et tout. Bon, c'est pas grave, ce sera lundi. C'était aujourd'hui tes places pour le skate? Non, c'était pas aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui. Plus tard. Plus tard, je vais accompagner mes neveux à des épreuves de skate du village olympique. Enfin, du village olympique, non, pardon, de l'espace de la place de la Concorde, dont j'ai oublié le nom. Et j'ai rien compris à comment ça marche, en fait. J'ai pas compris à quoi on avait accès, à quoi on n'avait pas accès, ce qu'on pouvait regarder ou pas. Je comprends rien. J'essaie de regarder les dates des épreuves et tout, mais les billets, ça correspond à autre chose. Enfin, je comprends rien. C'est pas grave. S'en branle. Y a des épreuves auxquelles on peut assister gratuitement. Bah, l'épreuve de triathlon, là où ils vont nager dans la Seine, tu peux te mettre sur un pont, ouais. Tu peux regarder les nageurs passer. Apparemment, il y a des écrans géants sur place. Ouais, de ce que je comprends, en fait, c'est un grand espace dans lequel il y a plusieurs endroits. Il y a des écrans géants, il y a des démonstrations, tu peux assister à plein de trucs et tout. Bref, ça va être le bordel, c'est pas grave. Moi, je vais être le tonton cool qui amène ses neveux pour regarder du skateboard. Et après, je vais leur offrir un skateboard chacun. Parce que c'est mon rôle d'oncle. Ça et les jeux vidéo. Jeux vidéo, ça viendra plus tard. On est en finale de rugby à 7 et ça c'est beau. Ah, il y a la finale du rugby à 7 là? Très cool. Très cool, très cool. Le 50 km marche. Ils vont le faire où le 50 km marche? Je sais pas. Alors là, attention parce que là on rentre quand même dans un truc. Je veux dire, moi le sport, comment vous dire à quel point c'est pas mon truc? Vraiment, je connais pas. Hein. Je suis Joseph Garbaccio, donc qui est qualifié aux Jeux Olympiques, qui représentera la France aux Jeux Olympiques de skateboard, parce que Joseph Garbaccio, j'avais skaté avec lui dans le stream qu'on avait fait chez Kenny. Il avait fait un stream de skate avec des skateurs pro et des streamers. Et moi, je faisais partie des streamers, et du coup, j'ai rencontré Joseph Garbaccio, qui est super sympa. Je me suis abonné à sa chaîne YouTube, évidemment, elle est trop bien sa chaîne YouTube. Et après, bah, j'ai appris, en suivant sa chaîne YouTube, j'ai appris qu'il était qualifié aux JO, quoi. J'étais en mode, mais attends, trop bien. Donc voilà, c'est le seul sport qui m'intéresse. J'avoue que le reste, il y a des trucs où il court, il y a des trucs où il saute, il y a des trucs où il lance des trucs, il y a des trucs où il se tabasse, voilà, c'est le sport. Pour des questions sport, faut aller voir Rivenzi. Ah ouais, non, carrément, Rivenzi, il est calé. Rivenzi, il est calé, beaucoup plus que moi. Ah non, moi, vraiment, le JO. Ou alors, faut demander à Sacha Beckerman, de Backseat. Elle est journaliste sport à France Télévisions. Autant vous dire qu'elle, elle bosse comme une tarée là. Hein. C'est un peu le climax de ta carrière quand t'es journaliste sport aux JO et que les JO sont dans ton pays. T'as besoin que des bénévoles te fassent des fiches sur chaque sport et chaque sportif. Ouais, les bénévoles, si vous pouvez me préparer ça, ce serait cool. C'est quoi le sport? Non mais blague à part. Blague à part, ma maman a pris des places aussi pour emmener mes neveux voir le taekwondo. Et elle m'a dit, je sais pas ce que c'est le taekwondo. Je lui ai dit, maman, c'est pas grave de pas savoir ce que c'est que le taekwondo. Va juste avant l'épreuve, va regarder sur YouTube ce que c'est que le taekwondo. Je suis sûr qu'il y a des chaînes qui t'expliquent ce que c'est que le taekwondo et comment on marque des points. Enfin, moi non plus, je connais pas. Mais elle m'a dit, ah ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Ouais, tiens, j'ai pas pensé, faut aller voir sur YouTube. Ouais. Et ça fait genre 6 mois que je la tanne en lui disant, mais t'es allé voir ou pas? Ah non, 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 toujours pas. Je sais toujours pas ce que c'est que le taekwondo. Fais ce que tu veux, mais si tu vas pas voir avant, tu vas te faire chier. Enfin voilà, c'est un peu le risque, quoi. C'est de la boxe avec les pieds. Ouais, c'est de la boxe avec les pieds. Non, mais tu tapes Taekwondo sur YouTube, tu check et tu apprends. Voilà. Ça prend 5 minutes. Et à mon avis, il vaut mieux le faire. Les darons, ils ont tellement pas le réflexe de demander à Internet. Mais grave! Moi, ça me choque, hein. Mon père, un jour, qui m'envoie un mail. Oui, parce que un truc de daron, c'est aussi d'envoyer des mails. Père qui m'envoie un mail en me disant, ah, regarde cette vidéo, c'est intéressant ce qu'il dit le monsieur. check sa vidéo et c'est un espèce de d'hurluberlu inconnu qui parle de, des étoiles, de l'alignement des planètes et des anciennes civilisations. Je check sur, Google, évidemment. En deux secondes, je trouve la réponse. Hein. C'est du n'importe quoi, c'est un guignol, c'est mon classique, quoi, classique d'Internet. Et du coup, je réponds ça à mon père. Je lui dis, ouais, pas ouf, le mec, c'est quand même un peintre. Il est reconnu par personne, il n'a pas de diplôme universitaire, machin. Et mon père, il me dit, ah ouais, ah, mais tu le connaissais, moi, je savais pas. Je lui dis, mais non, j'ai cherché sur Google. Et mon père, il fait, ah, t'as raison. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Ah, faut faire ça, ouais. Faut demander à Google, en fait. Papa, on est en 2024, je vais pas t'apprendre à googler le moindre truc. Enfin, je veux dire, moi, je dois faire une soixantaine de recherches Google par jour, juste sur l'orthographe des mots, sur des dates, je sais pas, je check, quoi. Là, c'est vraiment un truc de daron, c'est de pas checker sur Internet. L'autre truc que j'ai appris à mon... Alors, pas à mon père, parce que mon père, c'est un bricoleur, mais à mon beau-père, je lui ai appris que... Quand t'as un problème à la maison avec un appareil électrique ou avec un truc qui marche mal, etc., va regarder sur YouTube. Va regarder sur YouTube. Il y a 1 milliard de chaînes YouTube de réparation de trucs. Ta machine à laver, comment je la programme et tout machin, va regarder sur YouTube. Le problème que tu rencontres a déjà été rencontré par 8000 personnes à travers la planète. Il y a une solution. Et elle est quelque part sur Internet. Donc va checker, regarde sur Google, regarde des forums, regarde machin. T'es pas le premier à ne pas savoir comment rebrancher le frigo ou je sais pas, l'allumer ou je sais pas quoi. T'es pas le premier. C'est malheureusement pas qu'un truc de daron. Après ça, je sais pas. Chercher sur Internet, c'est littéralement le métier des devs. Mais bien sûr, mais évidemment, et c'est normal. Le développement, ça se fait en équipe. C'est collaboratif. C'est un peu la racine d'Internet. C'est la philosophie Wikipédia, quoi. Il y a quelqu'un qui sait, bon bah la personne qui sait, elle met la réponse et les autres ils acceptent en disant ok, la réponse est bonne quoi. Voilà. Les vrais héros bricolage réparation sur Internet. Non mais moi ça me fume hein, parce que du coup il y a des chaînes YouTube qui ont genre 1000 abonnés tu vois depuis 5 ans et le mec il fait que des tutos réparation de machines à café et de et trottinettes électriques. Et tu dis en fait personne regarde ta chaîne, personne n'a envie de s'abonner à ta chaîne. Vraiment je veux pas avoir des news de ta chaîne. Par contre à l'instant T, j'ai impérativement besoin de ta vidéo qui m'explique comment réparer ma machine à café. Donc je te suis reconnaissant éternellement pendant à peu près 10 secondes, et après j'oublie ton existence. Et bon courage pour ta chaîne YouTube. Mais merci du fond du cœur. 1500 abonnés, 5 millions de vues. Oui, c'est ça, c'est ce genre de vidéo. Pareil pour les chaînes spé ménage, contenu de ouf. Ah ouais, non mais moi ça m'a servi, hein. Je savais pas comment nettoyer ma baignoire, quel produit utiliser, machin. Je suis allé checker des vidéos de chaînes YouTube de ménage. J'ai appris plein de trucs. Très bien. Vinaigre blanc. Bah voilà, j'ai appris comment utiliser le vinaigre blanc. C'est là que t'as découvert la douche. C'est là que j'ai découvert la douche. Je comprenais pas à quoi ça servait, le truc avec le cordon, la métallique. Je sais pas. Il y avait ça chez moi quand j'ai loué l'appart. Je ne connaissais pas. Et je suis allé checker sur YouTube et apparemment, ça s'appelle effectivement une douche. Je sais pas si c'est en français ou... Mais ouais. Je savais pas que ça se nettoyait. Le corps, il paraît que ça se nettoie, ouais, il paraît. Et il paraît que ça se nettoie plus souvent que faire ses mises à jour sur son PC. Parce que moi, je nettoie mon PC régulièrement. Mais je crois que le corps, il faut aussi le laver de temps en temps. Pas en France. Ah, pas en France. Ah, c'est peut-être un truc pour d'autres pays, ouais, c'est possible. Propagande bourgeoise, ça je reconnais. Ouais. Faut installer quoi pour laver le corps? Doit y avoir des logiciels open source. Je sais pas. Encore une info de chat. J'ai un chat, il me fait ma toilette, c'est bon. Bon, on en parle de cette cérémonie d'ouverture 2 minutes ou pas? Pardon, hein.
Mais comme qui dirait qu'il s'est passé un... il s'est passé une dinguerie hier soir. Une dinguerie d'à peu près 4h, 4h30. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était vraiment bien. Ah non, mais vraiment, c'était une cérémonie d'ouverture. Je savais pas quoi en attendre, j'en savais rien. Moi, j'étais comme vous, hein. Moi, j'étais comme vous, hein. Esprit réfractaire, esprit gaulois. Oh, trop de la merde, la cérémonie d'ouverture, ça, c'est bon. Ils vont faire des trucs de chauvin. C'est bon, ils vont ressortir de Bussy et tout. Bon, je vais regarder quand même, parce que bon, voilà. Donc, je suis chez moi, je suis en calebar, je suis tranquille. Petit vendredi soir, je regarde la cérémonie. Puis on verra. Ah oui, alors truc important, si, si, non, truc important. On m'avait proposé une place pour assister à la cérémonie d'ouverture sur les quais. On m'avait proposé une place. Et j'avais dit non parce que je pressentais le truc. Je pressentais qu'en fait, la cérémonie d'ouverture, ça va être un show impressionnant à l'image. À l'image, mais pas sur place. Sur place, on va regarder défiler des bateaux. Et on va éventuellement, je ne savais même pas si c'était le cas ou pas, j'ai même pas posé la question, avoir des écrans où en fait tu regardes la cérémonie d'ouverture. Et avant même de savoir qu'il allait pleuver, ouais, oh putain, wow, la vache. Quand je pense que vous vous abonnez à cette chaîne, vu le niveau, avant de savoir qu'il allait pleuvoir, j'avais déjà dit non, c'est mort, vas-y, c'est bon, je vais rester chez moi. Je vais rester chez moi, je vais regarder la cérémonie d'ouverture. Mais je vais regarder la cérémonie d'ouverture telle qu'elle a été pensée, c'est-à-dire comme un, comme une émission, comme un show. Et ça se regarde. Ben, j'ai bien fait. Hein. J'ai une de mes tantes qui y était. Elle a rien vu. Elle a rien vu. Elle n'avait pas d'écran à côté d'elle. Elle est restée 3 heures sous la pluie. Et elle est rentrée chez elle avec un rhume et elle a essoré sa robe en rentrant chez elle, tellement elle avait pris de flotte. Désolé. Désolé, moi j'ai passé ma meilleure vie dans mon salon. C'est vrai que c'était relou quand il y a du pleuvage. C'est vrai que c'est relou quand il y a du pleuvage, ouais. Ouais, alors donc effectivement, il a plu pendant la cérémonie d'ouverture, ce qui est dommage. Et en même temps. Est-ce que ça a gâché le show? J'ai pas l'impression parce que les problèmes qu'on avait, j'ai l'impression que les problèmes qu'on avait, c'était essentiellement la condensation et les gouttes de pluie sur les objectifs des caméras. Ce qui effectivement est un truc sur lequel tu ne peux rien faire. Ça, tu peux pas travailler contre, tu peux pas essuyer ton objectif toutes les 2 minutes parce qu'il y a des gouttes qui retombent dessus. Il faut l'accepter comme comme un fait télévisuel, quoi. C'est comme ça, il pleut. Et ça a rendu stylé certains points. Et ben, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la pluie a ajouté quelque chose à certains plans de caméra, etc., ou certains trucs, notamment le catwalk sur lequel il y avait les défilés de mode et ensuite de danse. Bah, en vrai, la pluie, ça rajoute quelque chose, comme dans certains clips de musique, vous savez, on fait exprès de faire de la pluie avec des danseurs sous la pluie parce que c'est classe, parce qu'il y a des gouttes de flotte, parce que les pieds font gicler de l'eau, etc. Et c'est vrai que ça donne quelque chose, quoi. Et c'est vrai que moi, il y a deux, trois moments où je me suis dit, en vrai, la pluie est pas un problème. Au contraire, ça rajoute un truc. Pour les séquences avec les pianistes aussi. Ouais, c'est vrai, les mecs au piano avec de la pluie, je trouve que c'est classe, un piano sur lequel il pleut. Je trouve que ça a une forme d'élégance. Les lasers avec la pluie. Ah ouais, la pluie, ça a aidé aussi à la fin le show laser de la. Le show laser de la Tour Eiffel, pardon. Cherchez son nom. Alors, je ne vais absolument pas pouvoir vous diffuser la cérémonie d'ouverture, ni même vous faire des courts extraits pour des raisons de droit d'auteur. D'une part, la cérémonie d'ouverture est une cérémonie qui n'a pas été produite par France Télévisions, pour ceux qui ne le savent pas. Ça a été produit par l'OBS, qui est l'organisme du CIO. Du Comité international olympique qui s'occupe de la captation audiovisuelle. Ils ont plusieurs milliers de techniciens vidéo pour les différentes épreuves et pour la cérémonie d'ouverture. Les images sont ensuite vendues à des chaînes de télévision dans le monde entier
qui les diffusent parce qu'ils ont payé les droits et qui rajoutent par-dessus leurs commentaires dans leur langue. C'est pour ça que ce que vous avez regardé hier, c'est la couverture par France 2 de la cérémonie d'ouverture du CIO. C'est ça que vous avez regardé. Et les autres gens dans le monde, ils regardaient la couverture par une chaîne de télévision de leur pays de la cérémonie d'ouverture du CIO. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je disais, je ne vais pas pouvoir vous diffuser la cérémonie d'ouverture, c'est sûr, mais je peux vous faire des extraits sans son. Les extraits sans son. Non, 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 ta gueule. Ah, je peux pas faire pause. Voilà. C'est bon. Donc ouais, je disais... Voilà, le show laser... Le show laser de la... De la Tour Eiffel, avec la pluie, moi je trouve que ça rajoute un truc. Je sais pas, j'aime bien. Ça aurait été très bien sans, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ça aurait été très bien. Enfin, c'est, voilà, c'était très bien. Avec la pluie. Mais avant de parler de la cérémonie d'ouverture elle-même, on va faire le débrief ensemble. Hein. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé et tout, mais moi quand même, ce à quoi j'ai assisté hier. Devant mon écran, c'est probablement l'une des plus grandes productions de l'histoire de la télévision. On n'a jamais vu ça. Ma maman travaille dans l'audiovisuel aussi, on a débriefé ensemble, elle m'a dit « je n'ai jamais vu une télé dans le monde produire un truc pareil ». Il y a des trucs très durs à produire à la télévision. Les matchs de foot, par exemple, c'est extraordinairement difficile, ça demande des moyens colossaux, ça demande une régie... extrêmement carabiné, etc. Mais tout ça est contenu dans un stade. Donc tu connais l'emplacement, tout va se placer, il y a une unité de lieu qui fait que tout va être au même endroit. Tes angles de caméra, tu vas les travailler en fonction, etc. Machin. Il y a des trucs difficiles à produire, comme par exemple le Tour de France. Le Tour de France, c'est complexe. Mais en réalité, le Tour de France, avec des voitures qui ont des caméras à bord et des hélicoptères, tu as soit des voitures, soit des motos, pardon. Pareil, tu as une unité d'action... À l'instant T, il se passe quelque chose à l'instant où tu es, là où tu es, près du peloton. En général, on filme le peloton dans le Tour de France. Donc tu mets des scooters, des voitures, tu mets un hélicoptère qui suit le peloton, et tu as tes images et tu peux produire quelque chose de magnifique. Ça reste très difficile hein, à produire. Le GP Explorer, c'est très difficile à produire aussi, c'est des courses automobiles, mais les courses automobiles, on connaît le circuit. Et ça aussi, ça aide considérablement. On sait où foutre ses caméras, on connaît les virages, on connaît les espaces, les dépassements, on a des caméras embarquées dans les voitures... La réal est très dure, attention, je ne suis pas en train de simplifier les courses de Formule 1, qui reste un tour de force de production audiovisuelle. Mais ce qu'on a vu hier soir, les amis, mais c'est malade en termes de prod. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des angles de caméra, parce qu'évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher, c'est mon métier, je suis producteur, donc je fais attention à ce genre de trucs. J'ai vu des angles de caméra fous, complètement fous, qui ont été utilisés pendant une seconde et demie. Terminé, fin de l'utilisation. La caméra, on s'est fait chier à la monter avec un technicien toute la journée, calibré, machin, elle a servi pendant une seconde et demie. Et on passe à la suite. J'ai vu sur la scène des bateaux qui avaient donc des petits hors-bord qui avaient été équipés de toute une mécanique pour porter des lumières, pour éclairer ce qui se passe, notamment les bateaux des délégations. On avait des bateaux, des semi-rigides, partout sur la scène, qui faisaient des allers-retours entre deux ponts, avec des équipes de caméras à l'intérieur. En termes de prod, mais le réalisateur, je sais pas combien de flux il avait sur son mélangeur, mais c'est Barjot. Et zéro couac, frère. J'ai vu des angles de caméra qui étaient pas top. J'ai vu des choix de réalisation contestables. J'ai vu des trucs esthétiquement, on aurait pu faire mieux, etc. J'ai sûrement des critiques à faire, mais il n'y avait pas de couac. C'était fou. Le rythme était respecté du début à la fin. C'était barge. C'était complètement barge en termes de réal. Le son était nickel du début à la fin. Et quand je dis le son était nickel, c'est-à-dire que non seulement la musique était bonne, mais on entendait aussi derrière les cris du public. Et ça, il faut faire un mixage son un peu précis, parce qu'en plus, le public, il a différents endroits. Tu ne mets pas les micros au même endroit. Nous, à Baxit, on a des micros publics directionnels pour prendre les applaudissements, etc. Mais il est au même endroit, le public, dans Baxit. Là, tu avais du public partout, sur un fleuve, au cœur d'une ville. Je ne sais pas comment ils ont fait leur mixage son, mais c'était barge. C'était complètement fou.
Donc non, vraiment, vraiment le niveau de l'OBS, donc de l'organisation du CIO qui s'est occupé de la production audiovisuelle, était absolument stratosphérique. C'est un nouveau standard en termes de production audiovisuelle qu'on a vu hier soir, clairement. Les enchaînements de scènes préenregistrées et de live étaient zinzin. Mais oui, tout était nickel, tout était au cordeau. La réal était pixel. Sur une soirée de 4 heures, avec des trucs à filmer sur toute la scène. Plus des trucs enregistrés, il n'y a pas eu un couac, etc. Ça glissait, c'était... La réal était folle. Il y a des répétitions pour ce genre de... Il y a des répétitions pour ce genre de truc où c'est one shot. Il n'y a pas de répétition parce que tu peux pas répéter. Il y a des calages, évidemment, il y a des pré-calages où l'organisation qui s'est occupée de la production audiovisuelle, donc l'OBS, a prévu le plan de la scène. Ils connaissaient le déroulé de la cérémonie. Ils l'ont répété dans leur tête en réunion. Ils ont vu à quelle heure on passe sur quelle cam, comment est-ce qu'on prévoit ça, à l'heure pile on chope ça, là on envoie ça. Donc c'était préparé, mais c'est pas répété. La tour Eiffel, c'était dingue, bravo les ingés techniciens et lumière. Ouais, la tour Eiffel, je vous le montrais tout à l'heure, le show laser là de la tour Eiffel, moi j'en ai vu des shows sur la tour Eiffel, j'ai jamais vu ce niveau-là de show. Ils ont innové aussi, regarde les effets là sur la tour Eiffel, on n'a jamais vu ça. On sait faire scintiller la tour Eiffel, on sait lui faire allumer des phares en dessus, on sait tirer des feux d'artifice depuis la tour Eiffel. Je ne savais pas qu'il était possible de faire ça avec la Tour Eiffel. De balancer des lasers à tous les étages, à tous les boulons presque de la Tour Eiffel. De balancer des lasers, d'avoir des lights qui serpentaient, etc. autour de la Tour Eiffel. T'es en mode, mais t'es sérieux? J'espère que ça va rester ça. Hein. J'espère que la Tour Eiffel, ils ont gardé l'équipement et ils vont s'en servir. Ça change d'un feu d'artifice, c'était dingue. Ouais, ça change d'un feu d'artifice, je suis d'accord avec toi. Et c'était très visuel aussi comme un feu d'artifice, tu me diras, mais... J'ai spoté les bateaux caméras déjà il y a un an. Ah ouais? T'as spoté des bateaux caméras? J'avais jamais vu ça, moi. Donc ouais, alors moi, clairement... Bon, j'ai commencé à regarder la cérémonie d'ouverture comme tout le monde. La petite vidéo au début, machin... Le président de la République, bon d'accord, les enfants qui portent la flamme, bon d'accord, ils arrivent sur la scène dans un petit bateau et tout. Et là, ça commence. Bon, déjà, j'ai vu ça, j'ai fait « Ouais, pas mal !» Pas mal. Je me suis dit « Tiens, c'est pas mal, je me demande s'ils vont mettre des explosifs comme ça, des systèmes pyrotechniques sur tous les ponts, je sais pas ce qui est prévu, mais... Oh, ça a de la gueule, ouais. Non, non, franchement, bien, 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 bien. Pas mal, la déco du pont et tout. Ok, j'adhère. Hop. Les caméras sur les Parisiens, tout ça, on est en plein jour. Il pleuvait pas encore à ce moment-là. Hein. Pleuvait pas encore, c'est après le drame. Tac, 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 tac. Ça commence, il y a des petits jets d'eau sur la scène. Moi, je disais, ouais, joli. Pas ouf, hein. Mais joli, ok, d'accord, pourquoi pas. Il y a des jets d'eau, c'est sympa. Il y a le mec qui joue de l'accordéon sur le pont, oui, d'accord. Les délégations. Et là, il y a le show de... Bien sûr. Lady Gaga. Lady Gaga qui apparemment était enregistrée avant pour des raisons probablement de météo, parce que je suppose que quand ils ont vu que la pluie allait tomber, tout le truc des plumes là, du French Cancan machin, le musical et tout, un peu compliqué sous la pluie. Là pour le coup, les plumes sous la pluie, compliqué. Donc je crois qu'ils l'ont enregistrée avant. Peu importe, c'était joli, c'était pas méchant, la scène était pas mauvaise, un peu cliché. On commence la cérémonie, moi je me dis... bon, ok, ça va être des clichés français, en fait. Ils vont nous faire le cliché français du French Cancan, de machin. À ce moment-là, je sais pas encore à quoi on va assister. Parce que moi, j'ai gardé en mémoire la cérémonie d'ouverture du truc de rugby, là. C'était la Coupe d'Europe. Qui était bien franchouillard, un peu chauvin, etc.
Je me disais, ouais, pas dingue. Donc, ok, ça commence, c'est joli, c'est sympa, c'est vrai que l'image est belle. Bon, ils auraient pu mettre des plans de caméra un peu plus loin quand même, parce que. Mais en même temps, comme c'était enregistré avant, je comprends pourquoi ils en ont pas mis. Je me suis dit quand même, le décor autour, l'escalier en or est très joli. Mais là, on est sur le bout de l'île de la Cité, je crois. Ou l'île Saint-Louis. Non, non, sur le bout de l'île Saint-Louis. La déco est pas mal autour, il y a quand même des beaux bâtiments et tout. Ils auraient pu. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave. Hop, 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 hop. Donc il y a tout ce show. Après, il y a encore les délégations, les délégations, les délégations, les délégations. C'est bien, on a révisé les drapeaux. Hop, hop, hop. Là, il y a l'introduction du porteur de flamme. Introduction du porteur de flamme. Évidemment, on a tous la ref. C'est évidemment Assassin's Creed. Et c'est trop cool. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais trop bien. C'est trop cool. Ils assument le cliché Assassin's Creed, qui est un jeu français, dont un des épisodes s'est passé en France pendant la Révolution. Les darons l'ont pas, mais c'est pas grave. Et ça, il y a plein de trucs que les darons n'ont pas eu ce soir, hein, hier soir. On n'est pas là pour les darons. Le fantôme de l'opéra aussi, oui, tu as raison. Tu as raison, c'est aussi un clin d'œil à Vidocq, au fantôme de l'opéra, etc. Donc oui, il y a quelque chose de très français. Et je me dis, ouais, pas mal, j'aime bien. Arsène Lupin, ouais, aussi quelque part, Arsène Lupin, ouais. Donc en tout cas, moi, la ref Assassin's Creed, j'adhère. Bah évidemment, je suis un gamer, j'adore, c'est trop cool, ça a du sens, on y va, quoi. Les délégations, les délégations, les délégations. Nanana, plein de délégations. Le French Cancan avec les danseuses du Moulin Rouge, très cool. Pareil, c'est pas tout à fait mon truc, je suis pas un aficionados, etc. Je suis jamais allé au Moulin Rouge, mais... Ok, culture française, typiquement parisienne, c'est pas que la France, c'est aussi Paris qui est mis en avant. Bon, très bien. Trop rose. Ah bah ouais, mais là c'était le thème là. C'était le premier tableau, je crois, le premier tableau c'était sur le thème de l'amour. Ultra cliché. Oui, ultra cliché et en même temps ultra réel sur le fait que c'est une référence française connue dans le monde entier. C'est comme le béret, la baguette de pain, le Tour de France. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Il faut reconnaître que oui, les Français identifient ça. C'est Paris. C'est pas que français. C'est Paris. Bon, bah, fort bien. Le décorum était pas dégueu en plus. Ça, c'est une belle image, ça. Et vous voyez, les bateaux caméras dont je vous parlais, c'était ça. Les semi-rigides, équipés avec des gros arceaux métalliques sur lesquels ils avaient des éclairages pour éclairer ce qu'ils filmaient la nuit. Et ça, il y en avait plein dans Paris, des bateaux. La cérémonie d'ouverture des JO est un cliché de fait. Oui, mais oui, non, mais bien sûr. Non, mais rappelez-vous les Britanniques pour Londres en 2012, ils avaient fait une cérémonie d'ouverture ultra cliché. On avait eu les Spice Girls, on avait eu les taxis londoniens, on avait eu James Bond, la reine d'Angleterre. Bon, d'accord. Ok, let's go. J'adhère. Très bien. Mr. Bean, ouais, Mr. Bean qui était venu aussi. Bon, bah, let's go. Oui. Cliché, mise en avant, fierté de la culture britannique et tout. Ok, on y va. Ça me va. La musique des chariots de feu. Ouais. Donc voilà. Donc le French Cancan, bravo. Très joli. Le mec sur sa tyrolienne, on l'a très peu vu. Très très peu vu. C'était censé être un des événements un peu de la cérémonie, machin. Le mec sur sa tyrolienne. Non, non, il y avait un autre mec, un funambule aussi, qu'on a très peu vu à l'image. Je sais pas pourquoi. Compliqué à trouver. Peut-être qu'il y a une caméra qui a merdé, c'est possible. Ça arrive, hein, sur ce genre de prod, où les mecs ont des caméras partout dans Paris, enfin partout le long de la Seine. On n'est pas à l'abri d'une caméra qui a planté. Alors ça, on arrive sur Notre-Dame. Notre-Dame est en réparation, tout le monde le sait, la planète entière a vu Notre-Dame brûler, tout le monde sait que Notre-Dame est en réparation, etc. Il y a une grosse grue dégueulasse, il y a des échafaudages autour de Notre-Dame. Tu peux dire, ok, c'est dommage. Ok, c'est dommage, on va essayer de cacher ça, c'est un peu moche, etc. Et là, le choix esthétique qu'ils ont fait, c'est de faire exactement l'inverse. C'est dire, vas-y, on assume cash. On assume complètement que Notre-Dame est en travaux. Et on va montrer Notre-Dame en travaux. Et là, ils ont fait tout un show Avec les professionnels, en fait, les tailleurs de pierre, qui sont des métiers exceptionnels, typiquement là aussi français, qui travaillent sur des bâtiments de l'époque médiévale, avec des techniques à l'ancienne, etc. Et ils ont mis en avant les métiers. Il y avait des danseurs aussi en même temps. Alors ça, j'ai trouvé ça vachement bien sur le mur d'eau, là. Non, je l'ai raté. Donc bref, ils ont fait un espèce de petit moment de chorégraphie, voilà, la chorégraphie sur les échafaudages de Notre-Dame, avec des gens avec un casque de chantier sur la tronche. Les danseurs suspendus, entrecoupés d'images des gens qui dansent. En vrai, je trouve que ça claque. Évidemment, c'est enregistré, on était d'accord, tout ça a été enregistré. Très bien, tant mieux, je m'en fous. Le spectacle était très cool. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien. Moi j'ai trouvé ça bien d'assumer en fait. Vas-y, Notre-Dame est en travaux, on y va quoi. On va montrer les travaux de Notre-Dame plutôt que de faire le cliché de montrer Notre-Dame. Ils auraient pu mettre des caméras à l'intérieur, ou là là c'est joli et tout. Non, 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 on va te montrer les fucking échafaudages avec les gens en bleu de travail. Cette chorégraphie, les danseurs là, ils l'ont pas beaucoup montré. Je trouve ça dommage parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Les musiciens aux fenêtres, splendides. Les musiciens aux fenêtres, c'est magnifique, c'est très beau, ça marche très bien. Clin d'œil de Quasimodo, ouais, un clin d'œil de Quasimodo, un clin d'œil de Quasimodo, je l'ai vu, ouais. Donc voilà, on retrouve le porteur de flammes sur le toit de Notre-Dame, sur les toits de Paris, pardon. Là, c'est le truc où il voit. Ah, ça, c'est toute la séquence Louis Vuitton. Ça, c'est toute la séquence Louis Vuitton avec les malles Vuitton. Avec la fameuse malle Vuitton. Tout le monde a fait la blague Carlos Ghosn, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, il y a un côté sponsor. Il y a un côté sponsor, placement de produits, etc. C'est vrai, c'est un placement de produits Vuitton et tout. Et en même temps, Vuitton, les malles Vuitton, ça fait partie de la culture française et de l'excellence française. C'est aussi du rayonnement. C'est-à-dire que, ok, c'est une marque privée, je le reconnais tout à fait, c'est une marque privée, mais le Moulin Rouge aussi, c'est une marque privée. C'est une entreprise privée, le Moulin Rouge. Bon, le luxe à la française, le luxe industrie parmi les plus exportatrices du pays, etc. J'étais un peu dégoûté que la cérémonie fasse une pub géante pour LVMH. Ouais, je suis d'accord, je comprends. Vraiment, je comprends. Et en même temps, rayonnement français, culture française, le luxe français, la mode aussi. On a vu des défilés de mode, hein. Défilé de mode, c'est une pub géante. Par définition, un défilé, c'est une pub. Et bah oui, mais les défilés de mode, c'est aussi la France. C'est aussi Paris, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi une exportation, c'est aussi un rayonnement culturel, etc. Donc, à la limite, quitte à faire du sponsoring sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, moi j'aurais bien vu un Airbus A380 ou A350, un peu plus moderne, qui vole au-dessus de la Seine. T'es en mode, ok, let's go, rayonnement de la France. On y va, Airbus, ça part, un Concorde. Un Concorde, c'est plus trop à vendre. Mais tu vois, on a parlé tout à l'heure de Assassin's Creed. La référence à Assassin's Creed, c'est privé. C'est une pub pour un jeu vidéo en pleine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bon. Un petit rafale, ouais, un petit rafale, allez. Plutôt que de mettre la patrouille de France, tu fais une patrouille de rafale, tu mets Ariane 6, tu mets un TGV, tu mets. Bon, bref. En tout cas, ils ont décidé de mettre en avant le luxe à la française, qui est aussi, pour le coup, à la différence d'Airbus, etc., c'est typiquement parisien. C'est très 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 parisien, Vuitton. Et c'est un artisanat, oui, c'est un artisanat avec, c'est vrai, une excellence française reconnue dans le monde entier, l'artisanat de luxe. C'est un savoir-faire quasiment unique, machin. Bon. J'ai pas vu la patrouille de France à la télé. On l'a très très peu vu, la patrouille de France à la télé. On les a vus former un cœur au-dessus de Paris un petit peu plus tôt. Donc bref, il y a eu toute cette séquence avec l'artisanat de luxe. Ça a été filmé, je sais plus où. Ah oui, ça c'est tout le truc, c'est la Monnaie de Paris. C'est la Monnaie de Paris. Donc Monnaie de Paris, hein, je rappelle, là aussi une excellence française de gens qui savent imprimer des pièces de monnaie et des médailles depuis des siècles. C'est en l'occurrence la Monnaie de Paris qui a été chargée par l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 de fabriquer les médailles. Des sportifs. Donc, ils nous ont montré le processus de fabrication de la médaille, machin. Voilà, la médaille d'or, elle est magnifique, tout ça, tout ça. La malle qui descend, Carlos Ghosn, tout ça, la blague est drôle. Comment il s'appelle déjà ce danseur étoile? Fabuleux. J'ai trouvé ça magnifique.
Sur un toit comme ça, l'angle de caméra est vraiment pas dégueu. C'est Guillaume Diop. Merci, Guillaume Diop. Guillaume Diop. Vraiment splendide. Encore une fois, j'ai pas le droit de vous montrer des longues images. Mais quelle élégance! Quelle élégance! C'était absolument splendide. Donc là, moi, je regarde ma cérémonie d'ouverture, je vois passer ce genre de truc, je commence à me dire, ouais, en fait, elle a un peu de la gueule, la cérémonie d'ouverture, c'est pas mal. J'étais vraiment parti en mode, bah, les couilles de la cérémonie d'ouverture. Mais là, je commence à me dire, en vrai, c'est pas dégueu. La déco, là, est absolument splendide. C'est la déco de l'Hôtel Dieu, ça. Ouais, c'est l'Hôtel Dieu qui est derrière. Donc, ouais, très cool. On accélère, nouvelle séquence sur la comédie musicale des Misérables. La comédie musicale des Misérables a tourné dans le monde entier. Le film Les Misérables a été vu dans le monde entier. Ok, produit de rayonnement. Et en plus, vous savez que politiquement, Les Misérables, c'est quand même un truc très républicain, français, pour la Révolution 1830 ou 1848, je sais jamais laquelle des deux. Donc ok quoi. Et c'est 1830, ouais, c'est ça, Les Misérables. C'est 1830, ouais. Bref, très chouette. Très très chouette. Et là, on arrive au moment où ma mâchoire. Non. Mes yeux se sont écarquillés. Jusque-là, je passais un bon moment.
Le français Claude Michel Schönberg.
Les images sont belles. Hein.
Qui évoque celui de Delacroix, la
Ce plan de caméra là.
Regardez la conciergerie.
Pardon, excusez-moi, c'est le producteur qui parle. Hein.
Il traverse ce tableau.
Ce plan là, il est splendide.
Celui de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Regardez la conciergerie derrière.
Vous avez pas le son? Mais si, vous avez le son.
La liberté, bien sûr.
Vous avez le son, non? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ah. Les aristocrates, on les pendra.
Vous connaissez cette chanson? Pour ceux qui n'ont pas le lore. Pour ceux qui n'ont pas le lore, à la fin du XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à Paris, les aristocrates, les bourgeois, les gens de la cour, etc., ont fait installer dans Paris des lampadaires. C'était une technologie un peu nouvelle à l'époque. On n'était pas encore au gaz, hein, c'était encore à la bougie, mais ils ont fait installer des lampadaires. Pourquoi ils ont fait installer des lampadaires? Parce qu'ils trouvaient que Paris, alors à l'époque c'était avant les travaux d'Haussmann, c'était encore un peu médiéval comme architecture et comme urbanisme, donc il y avait des petites rues, et dès que le soleil tombait et que la nuit arrivait, il commençait à faire très très sombre. Et dans ces petites ruelles obscures, les bourgeois avaient peur. Ils avaient peur de se faire arracher leur bourse, de se faire molester, de se faire tuer. Et objectivement, ça arrivait. Hein. Effectivement, t'étais un bourgeois un peu bien sapé dans les ruelles obscures du Paris du XVIIIe siècle, tu risquais de t'en prendre une, on va pas se mentir, frère. Hein. C'est... Voilà. Et donc, ils ont installé des lampadaires. Et les Parisiens, le tiers-état, les travailleurs, tout ça, n'ont pas du tout apprécié ces lampadaires. Parce que à l'époque, le lampadaire, c'était un peu l'équivalent d'aujourd'hui de la caméra de surveillance. Et les Parisiens, on leur foutait des lampadaires, ils trouvaient que c'était une intrusion de ces connards de bourgeois dans leur ville, dans leur vie, pour éclairer, parce qu'on n'a pas confiance en eux, parce que machin, etc. Et donc, il y a eu une chanson révolutionnaire à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de manifestations, de slogans, etc. C'est arrivé un peu plus tard. À l'époque, il y avait beaucoup de chansons populaires, et les chansons populaires étaient très politiques. Et il y a eu cette chanson politique, cette chanson historique qui s'appelle « Ça ira », et que vous venez d'entendre, dont le premier refrain, vous venez de l'entendre, « Les aristocrates aux lampadaires, les aristocrates, on les pendra ». C'est un chant pré-révolutionnaire. On est pile poil dans cette ébullition du Paris ouvrier de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui prépare la révolution. Et c'est d'où vient cette chanson. Voilà, on va pendre ces salauds d'aristocrates aux lampadaires qui nous ont installés dans nos villes, ces enfoirés. C'est de là que ça vient.
Ah. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Et là, j'ai ma mâchoire qui se décroche.
Là, j'ai ma mâchoire qui se décroche quand je vois ça. Parce que le bâtiment que vous voyez, mesdames et messieurs, c'est la Conciergerie de Paris. La Conciergerie de Paris, c'était la prison dans laquelle a été retenue Marie-Antoinette avant d'être décapitée. Et ils ont foutu des Marie-Antoinette décapitées aux fenêtres de la Conciergerie de Paris. Je vois ça, je suis en mode « Ah ouais !» Ah, donc on va assumer toute notre histoire. On va y aller franco. La France, c'est aussi la Révolution. La France a décapité Marie-Antoinette. La, la France... ouais, waouh. D'accord. Ouais, ouais, c'est clairement notre histoire. Ça a d'ailleurs fait beaucoup polémique, y compris encore aujourd'hui. Hein, la décapitation de Marie-Antoinette, on peut se le dire aujourd'hui, après 2 siècles de recul, n'était pas tout à fait nécessaire. Elle était un peu dégueulasse. Mais voilà, les révolutionnaires voulaient empêcher le roi d'avoir une descendance masculine, etc. Machin. Bref, donc ils ont décapité Marie-Antoinette. Et là, clairement, on montre Marie-Antoinette décapitée. Genre, ils n'ont pas foutu une Marie-Antoinette avec sa tête qui chante je sais pas quoi. Non, non, ils ont foutu une Marie-Antoinette décapitée qui chante « Ça ira », qui est un chant révolutionnaire, pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le tout à la Conciergerie de Paris. Incroyable. Mais vraiment. Non mais vraiment, le côté assumé il est génial, c'est du génie. C'est... Ah ouais, on y est. Vive la France les gars. C'est salut le monde. Nous c'est la France. Voilà. Et évidemment, la musique commence. Moi je fais mais attends c'est du métal.
C'est le type de...
Mais attends cette image elle est folle. Ils ont vraiment mis un groupe de métal. Sur des petites plateformes sur la Conciergerie de Paris avec des flammes en dessous. Est-ce que c'est sérieux? Et là, je me dis, mais attends, c'est qui comme groupe?
Cette cérémonie.
Ce plan de caméra, mesdames et messieurs, il est splendide, ce plan de caméra. Il est absolument splendide. Je vous parlais tout à l'heure des caméras qui ont été utilisées une seule fois seulement pendant toute la cérémonie. Ça, c'est le très bon exemple. C'est incroyable.
Ça ira.
Bon, là, le cadrage merde un peu.
Merci. Voilà.
Là, t'as un cadreur qui foire, c'est pas grave. Le réalisateur cherche une solution.
Que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de voir. Le plus grand groupe de heavy metal français, reconnu dans le monde entier, Gojira, suspendu aux parois de la Conciergerie.
Et là, je suis comme tout le monde, je me dis, mais non, c'est Gojira. Ils sont sérieux. Il y a Gojira qui fait du métal à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la Conciergerie avec Marie-Antoinette décapitée, mais what the fuck? Et là, pour le coup, la soirée a vraiment commencé pour moi à partir de ce moment-là. Cette folie, mais cette folie. Alors pareil, j'ai pas le droit de vous diffuser la, j'ai pas le droit de vous diffuser les images, tout ça. Je suis dans le, j'essaie de me m'astreindre aux droits de courtes citations, mais je n'ai pas les droits de diffusion, bien sûr. Gojira, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas bien le métal, Gojira est l'un des plus grands groupes français de métal qui joue dans le monde entier. À partir de ce moment, c'est tout chousse, mais grave, maman, je suis grave d'accord avec toi. À partir de ce moment-là, là, vraiment, je me suis dit, mais attends, cette cérémonie, elle est dingue. Il se passe une dinguerie. Le French Cancan, c'était sympa. Lady Gaga, c'était sympa. Les bateaux, c'est sympa. Ça marche bien, j'aime bien les délégations et tout. Mais là... Bon, désolé, je suis obligé d'arrêter. Regardez la séquence, re-regardez-la. 1000 fois, je l'ai regardé, moi, depuis hier. Ce matin, en me réveillant, je l'ai re-regardé. Les images sont folles. La Conciergerie de Paris, hyper bien éclairée. Dingues, les plans de caméra. Ce plan de caméra-là, il a servi qu'une fois. Attends, c'est même pire que ça, je crois. Il y a un autre plan de caméra que j'ai vu. Où vraiment l'image dure une seconde, où la caméra elle est cachée dans un clocher, c'est pas la Conciergerie, c'est le truc en face, où le plan de caméra est splendide, mais il a servi, mais vraiment que pendant une seconde, on l'a plus jamais revu toute la soirée. La production audiovisuelle, les gars, elle était folle, j'ai jamais vu ça. On arrive avec le bateau de Carmen qui arrive. Il y a Gojira qui vient de chanter « Ça ira », donc le chant révolutionnaire parisien, réinterprété en version métal. Là, il y a Carmen qui arrive et Gojira et Carmen vont faire de la musique ensemble. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Et ils chantent ensemble avec Carmen et le truc est fou et musicalement ça tient de ouf. Musicalement ça marche, c'est beau, c'est splendide. Alors de toutes les façons, moi la bande originale de cette cérémonie d'ouverture, je la veux dans mes veines pour le reste de ma vie. Et surtout, on verra ça plus tard, quand on arrive plus tard dans la soirée. Des trucs vraiment incroyables, quoi. Musicalement, ça marche. Et on termine, évidemment, avec des effusions de sang. C'est-à-dire qu'on a, on a les Marie-Antoinette décapitées à la fenêtre. Et qu'est-ce qui sort des fenêtres ? Des effusions de sang. Ok. Ok, jusqu'au bout. On a décidé qu'on assumerait le truc jusqu'au bout. On va faire saigner Marie-Antoinette par le cou. Et on va balancer du sang dans la scène. Non, mais c'est ouf. J'ai jamais vu un truc pareil. Pour ceux qui n'avaient pas capté. Ouais, c'est ça, pour ceux qui n'avaient pas compris. Bonjour, nous on est la France. Et du coup, regarde, t'as les filaments de sang qui se prennent dans les voiles et qui se prennent dans le guitariste de Gojira là-haut, et ça marche bien. Le vent était dans le bon sens. Genre, ça claque visuellement en plus. Ça fait pas de cheap. Regarde-moi ça. Chut, pas la musique. C'est fou. Non mais c'est fou. J'attendais pas grand chose de cette cérémonie, mais c'est une masterclass. Mais je suis exactement comme toi. Donc là, moi, à ce moment-là de la soirée, j'arrête tout, je ferme mes applications sur mon PC et je dis vas-y, c'est bon, je pars sur la cérémonie, je veux regarder ça. Là, je viens de voir un truc de fou. Il y aurait eu que ça, ça m'aurait déjà suffi. Mais il y aura pas que ça. Les images sont folles, les danseurs au bout des pics, c'était magnifique aussi. J'ai trouvé ça très joli. Malheureusement, pareil, il pleut, les caméras commencent à avoir des gouttes sur les objectifs, type rien. Ça donne des trucs qui peuvent pas être trop dégueux un peu plus tard dans la soirée, parce que ça donne du bokeh un petit peu sur l'image, avec les lumières. Là, à ce moment-là, c'est un peu dommage, mais bon, type rien. Là, il y a toute cette séquence qui commence autour de la littérature française. Alors ça, c'est vachement dur, parce qu'ils se sont dit, attends, on veut représenter la France dans le monde, on veut parler du rayonnement français, on veut parler de la littérature française. Et c'est vrai que c'est pas facile. Comment tu mets des livres dans une cérémonie qui est très visuelle, très musicale, très dansante ? Pas facile. Et ben, ils ont fait ce petit court-métrage que je trouve absolument splendide. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il faut lire le titre des livres. Parce que les titres des livres, en plus d'être des livres classiques de la littérature française, sont des messages que les acteurs s'envoient. Il ne parle pas, il se parle par titre de livre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc c'est un jeu de séduction à travers les livres, en sélectionnant certains livres qui font passer des messages. Donc là, il y a toute cette séquence. Il y a le funambule qu'on voit ici qui prend une danseuse. Je crois que c'est la seule fois qu'on verra le funambule du truc. À mon avis, c'est à cause de la pluie. Ils n'ont pas pu faire tout le plan qu'ils avaient prévu. Ça transpirait le sexe. Attends, ça arrive après. Hop. Et là, on arrive dans la séquence où ça part en... Est-ce que c'est pas génial ? Est-ce que c'est pas génial ? Genre, Paris, ville de l'amour. Comment tu veux symboliser Paris, ville de l'amour ? Et bah tu mets un putain de plan A3 bi dans un appartement sous les toits de Paris. Welcome to France. C'est vraiment parfait. J'ai vu que ça a fait péter un plomb à l'extrême droite, etc. T'es en mode, mais les gars, Paris, ça baise A3 depuis des siècles. C'est pas Macron, c'est pas la gauche, c'est pas la modernité. Paris, ça baise. C'est voilà. Pardon, excusez-moi, hein. C'est un peu la base. Le RN en PLS, mais niquez-vous le RN. Vraiment, niquez-vous. C'est nous qu'on fait. Non mais voilà, on vous apprend ce que c'est que la vie de l'amour, il y a un plan A3. Let's go. Pareil, là je me suis dit, mais c'est trop bien. Ils auraient pu faire le cliché de Paris, ville de l'amour, avec un couple qui se rencontre, un côté Belle et le Clochard ou Ratatouille, je sais pas. Ils auraient pu faire de mille manières le cliché de Paris, ville de l'amour, oh là là, on s'embrasse dans Paris, c'est magnifique. Mais le plan A3, let's go, quoi. Trop bien. Amélie Poulain, ouais, c'est ça, ils auraient pu faire le cliché Amélie Poulain, ouais. Bah non, ils ont fait... ils ont fait un truc qui est beaucoup plus assumé sur la réalité de ce que c'est que l'amour à Paris. Voilà, ça c'est la seule image qu'on verra au cours de cette cérémonie d'ouverture de la Patrouille de France. Je crois que la Patrouille de France a dû annuler une deuxième partie qu'il devait faire. J'ai cru comprendre qu'il devait survoler la scène avec un panache bleu blanc rouge, mais que les conditions météo étaient mauvaises, le plafond nuageux était très bas, il pleuvait, et donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc comme ça. Donc voilà, un grand cœur autour de l'île de la Cité, dessiné par, par la Patrouille de France, splendide. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la Patrouille de France vole sur Alpha Jet, un avion extraordinaire, monoréacteur, aile basse, bref, aile haute, pardon. Les choix artistiques sont très cash en fait. Mais oui, c'est ça, les choix artistiques sont très cash. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Enfin, je trouve que c'est ça qui cartonne. Et alors là, mesdames et messieurs.
Pont des Arts.
Je vais me faire striker ma chaîne Twitch, mais je m'en branle, il faut qu'on regarde ça.
On entend.
On a la garde républicaine qui chante Des Indésirables. J'ai oublié le titre de la chanson exacte. La garde républicaine, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, la garde républicaine est une... Ah putain, c'est quoi le mot ? Une partie de l'armée, une légion, une brigade, je ne sais pas, d'honneur. Le rôle de la... est un corps d'armée, oui, c'est ça, un corps d'armée. Le rôle de la garde républicaine n'est pas un rôle opérationnel sur le terrain. Les gardes républicains ne se battent pas. Les gardes républicains sont un corps d'armée qui a vocation à être représentatif. Ils sont là pour symboliser l'honneur de l'armée française. Ils sont là pour symboliser aussi la protection de la République française. Je vous explique à plusieurs reprises que la garde républicaine, par exemple, est affectée à la garde du palais, du palais Bourbon, symbolisant la soumission de l'armée au pouvoir civil. C'est le principe républicain d'avoir un garde, une partie de l'armée, un corps d'armée qui protège symboliquement les institutions de la République contre les risques divers et variés de coups d'État, etc. C'est une protection, c'est une protection de la République française et c'est un corps d'honneur de l'armée. Donc c'est un corps qui défile à cheval. Vous avez déjà vu la garde républicaine défiler à cheval, notamment à l'occasion des cérémonies du défilé militaire du 14 juillet pour la fête nationale. Ce sont les gardes républicains qui accompagnent la voiture du chef de l'État lorsqu'il remonte les Champs-Élysées. C'est eux les mecs à cheval, c'est la garde républicaine. Ils sont là. Ils sont armés ? Non. Les gardes républicains ne sont pas armés. Ils ont un sabre, mais c'est un sabre de représentation. Et surtout, la garde républicaine est également connue pour sa musique, puisque la garde républicaine a un orchestre d'apparat. Merci, un sabre d'apparat. Merci. Merci de me corriger, parce que là, je galère avec les mots de vocabulaire aujourd'hui. La garde républicaine a également un orchestre qui symbolise lui aussi l'armée. C'est cet orchestre qui chante... La Marseillaise, l'hymne national, à l'occasion du 14 juillet ou à l'occasion d'autres fêtes nationales. C'est cet orchestre qui chante aussi des chants de la résistance, comme le vol noir des corbeaux sur nos plaines, le chant des partisans. Et la garde républicaine peut être aussi amenée ponctuellement, mais c'est assez rare, à chanter des chansons, à jouer des musiques du chant populaire, du chant classique. Et là, c'est exactement ce qu'on a avec la garde républicaine qui chante un classique français. Plutôt que de chanter bêtement la Marseillaise, ils ont dit, vas-y, on va leur faire chanter du Aznavour. Et moi, j'ai trouvé ça vachement bien. J'entends ça, je suis en mode, ouais, pas mal le Aznavour, la garde républicaine, j'aime bien.
Ils font face aux portes de l'Institut de France, qui s'ouvre uniquement pour le pape, le président, et...
Donc là, on est sur le Pont des Arts. Hein. Pour les non-parisiens, si vous ne connaissez pas, le Pont des Arts, c'est là que les étudiants vont boire de la bière le soir. Avant d'aller faire des plans à trois dans les appartements, bref, vous avez compris. Donc, la garde républicaine qui s'avance sur le Pont des Arts en direction de l'Institut de France. Ok, très bien. Mes années étudiantes. Moi aussi, mes années étudiantes, le Pont des Arts. Combien de fois j'ai vomi sur le Pont des Arts. Alors, le porteur de flammes qui court, qui dépasse. Ok, d'accord. Ah, t'es en mode, ils vont faire quoi? Regarde le plan de caméra, comment il est beau. C'est splendide, sur l'île de la Cité.
Génial. L'Institut de France qui s'illumine. Et qui s'embrasse.
Allez, avec amour, évidemment.
Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Là, ma mâchoire s'est décrochée pour la deuxième fois de la soirée. Ceci, mesdames et messieurs, est l'Institut de France. très très belle institution, l'Institut de France, qui est notamment le siège de l'Académie française. L'Académie française, qui a un rôle de gardienne de la langue française, qui est censée écrire un dictionnaire qu'elle n'écrit pas, l'Académie française, qui est aussi un symbole d'une vision un peu particulière de la culture française et de la langue française, une vision conservatrice, une vision réactionnaire. C'est notamment au sein de l'Académie française que siège Laurent Darcos. Non, c'est pas Laurent son prénom. Darcos, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Je sais plus ce que c'est. Mais aussi Alain Finkielkraut. Xavier Darcos, merci. Xavier Darcos, Alain Finkielkraut. L'Institut de France est un haut lieu de ce qu'on peut appeler la droite culturelle française. La droite du Figaro, la droite de l'Académie française, la droite du Château de Versailles, la droite d'une certaine idée de la grandeur de la civilisation française, de sa culture, de sa langue, etc. C'est un peu le bâtiment qui, au cœur de Paris, symbolise le mieux ça. L'Académie française a été au cœur d'une polémique lorsque Aya Nakamura, qui est l'une des artistes françaises et francophones les plus diffusées dans le monde, s'est fait allumer la gueule parce que dans ses chansons, elle parle pas français. Elle parle mal français. C'est pas bien la langue qu'elle utilise. C'est une mauvaise langue. C'est une langue de jeunes. C'est une langue de banlieue. C'est une langue d'immigrés. C'est une langue d'étrangers. C'est une langue de noirs et d'arabes. C'est ça que la droite a attaqué, notamment l'extrême droite, par la voix d'Éric Zemmour, à travers Aya Nakamura. Et là, ils ont décidé de faire une scénographie où on met le feu à l'Académie française, les gars. On fout le feu à l'Académie française et il en sort Aya Nakamura en majesté, qui va pas chanter du Edith Piaf, hein. Qui va chanter ses chansons à elle. Vous comprenez pourquoi ma mâchoire s'est décrochée ? Pareil, j'ai pas les droits sur la musique, je suis désolé. Le symbole est barge. Le symbole est vraiment barge. On a Aya Nakamura qui sort en majesté de l'Académie française, qui dit niquez-vous tous, qui chante ses chansons à elle, avec son verbe à elle, avec sa langue française à elle, et qui s'avance sur le Pont des Arts en chantant, qui reprend Dja Dja ensuite, sur fond d'Académie française. Encore une fois, j'insiste, pour vous dire à quel point c'est ouf. Et surtout, la surprise n'est pas totale. On a la garde républicaine qui s'avance. Et qui joue du Aya Nakamura.
Image incroyable.
La garde républicaine, le corps d'honneur d'élite de l'armée française, qui accompagne Aya Nakamura, une chanteuse identifiée comme étant de banlieue, pas française, etc., pas intégrée mon cul, et ils jouent ensemble sur le Pont des Arts. Fou, juste fou. Enfin, on m'aurait dit que ça arriverait, j'y aurais pas cru. J'aurais dit jamais. Ils vont pas faire ça. Donc voilà. Ouais, les deux gradés derrière, les deux officiers qui dansent. Let's go. En plus, alors encore une fois, je connais mal la garde républicaine, mais il est possible que le mec qui danse, ce soit littéralement le chef, genre le colonel ou le général, tu vois, le major, je sais pas comment on dit. Quand je vous dis qu'ils ont décidé d'assumer jusqu'au bout cette cérémonie d'ouverture, ils ont dit mais on va aller jusqu'au bout. Et ça finit sur un garde à vous par Aya Nakamura et ses danseurs. T'as pas le droit de diffuser ? Bah non, j'ai pas les droits de diffusion et j'ai pas les droits sur la musique, donc là c'est un peu limite ce que je suis en train de faire. O7, le O7 de la République. Et derrière, l'Académie française qui crame. J'insiste. sur fond d'Académie française qui crame. Ils auraient fait ça sur une scène au Zénith, ils auraient fait ça au Stade de France, ils auraient fait ça devant la Tour Eiffel, ils auraient fait... Non, non, ils l'ont fait devant l'Académie française. Let's go. Moi, j'achète. Comment s'appelle l'organisme audiovisuel du CIO ? Ça s'appelle l'OBS. C'est l'official, je sais pas quoi, truc de, du CIO. C'est la, ceux qui sont chargés de la prod. Donc bref, les symboles sont barges et c'était vraiment un moment épique. Le Louvre, là il y a toute la partie ensuite, donc là à nouveau les sportifs, les sportifs, les sportifs. Il y a à nouveau le truc à la fin sur la, la Joconde qui est perdue. Le piano c'était pour accompagner quoi ? Ah non, c'était pour rien accompagner, pardon, c'est un grand pianiste dont j'ai oublié le nom, qui joue sous la pluie sur un pont et qui joue une musique absolument magnifique. Il s'appelle comment déjà ? C'est Kantorov. C'est Alexandre Kantorov. Merci, c'est ça. C'est Alexandre Kantorov, pianiste exceptionnel, reconnu dans le monde entier. Et alors, tu... non mais on en parlait tout à l'heure, tu vois, moi typiquement là je trouve que la pluie, c'est pas grave. Je trouve que ça ajoute même un petit truc. Je sais pas, je suis désolé, c'est purement esthétique, mais un pianiste sous la flotte, je trouve pas ça moche. C'est comme un guitariste sous la flotte, je trouve pas ça moche. Je trouve que ça rajoute un truc pas dégueu. Ok, un sublime coucher de soleil. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du plan de caméra, mais derrière, vous avez quand même le fucking Grand Palais. Hein. La verrière du Grand Palais. Quand je vous dis que ce plan de caméra est fou. C'est ouais, non, c'est pas. Je trouve pas ça horrible. Bon, le piano, par contre, il est dead. Bah oui, mais ça, j'espère qu'ils ont pris un piano pas cher. Hein. De toute façon, je suppose que c'est... Oui, non, si, c'est du playback. Je suis à peu près persuadé que c'est du playback. Tu peux pas avoir des bonnes conditions d'enregistrement d'un piano sur un pont avec des bateaux qui passent en dessous et du public, etc. Alors, je trouve, c'est une opinion personnelle encore une fois, qu'il n'y avait pas assez de plans d'hélicoptère. La scénographie de la scène avec tous ces bateaux, avec ces ponts, etc., aurait, je trouve, mérité davantage de plans en hauteur pour montrer Paris, etc. Il y a des très beaux plans de Paris pendant la nuit avec les éclairages des rues de Paris plus tard dans la soirée. Mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de plans. Il y a une possibilité, c'est que le plafond nuageux était trop bas et qu'il ne pouvait pas faire voler de drones et d'hélicoptères, etc. C'est complètement possible. Honnêtement, c'est possible, je ne sais pas. Il y a eu des gros zooms dégueux à gogo, par contre. Oui. Mais ça, on va en reparler. C'est ce que je vous disais sur les bateaux semi-rigides avec les caméras dessus. Être caméraman sur un bateau semi-rigide, c'est un cauchemar parce que le bateau sur lequel tu es, il bouge et le plateau que tu filmes, il bouge aussi. Donc du coup, quand tu zoomes, tu te retrouves dans des situations où en vrai, ton plan, il est pété. C'est très, très difficile. Hein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les... Le CIO a décidé d'utiliser la solution technique Live Event. C'est un nouveau logiciel qu'on utilise notamment pendant l'Eurovision et qui permet de timer le montage de caméra à l'avance. C'est de la réelle automatisée à l'avantage du gros. Problème, le logiciel est instable. Plus de 160 caméras ne fonctionnaient pas à cause de l'eau. Tous les panneaux LED souffraient d'une baisse de tension. Ça explique le bruit, l'exposition catastrophique, le focus qui se perd. Eh bah putain, ça s'est pas vu. Hein. Parce que de ce que tu me dis, ça a été catastrophique en termes de réel. Moi, de ce que j'ai vu hier soir... C'était loin d'être dégueu, la réal. Mais effectivement, le live event, faudrait que je m'intéresse un peu plus près sur cette technologie parce que c'est effectivement ce que utilisait l'Eurovision. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que l'Eurovision a un type de réal particulier, donc ça doit être ça. Bref, plan de caméra magnifique quand même. On est sur le bout de l'île de la Cité, c'est quand même loin d'être dégueu. Le pont neuf. Les délégations. Les sportifs. Attends, par contre, on va arrêter le... Hop là. Ça, j'ai pas trop compris les visages derrière. On n'a pas eu beaucoup d'explications. Je trouve ça ni moche ni beau. J'ai rien à en dire. Je suis pas très bien compris. C'était des femmes. C'est des œuvres du Louvre. Ah, c'est les tableaux du Louvre. Ah bah oui, parce que là, on est sur les jardins des Tuileries. Donc le Louvre, c'était juste avant. Avant, il y avait le Louvre. D'accord, ok. Ok. Donc ils ont mis des visages connus d'œuvres du Louvre, le visage dans la Seine. Pas mal. Pas mal. Pas grand chose à en dire. Ok. Et délégation. Le porteur de la flamme sur les toits du Louvre. Qui remonte dans le temps. Donc là, il y a toute la partie cinéma, Louis-Lumière, etc. Très bien. Voilà, le cinéma français, machin. Les Mignons. C'était marrant. Je savais même pas que c'était français, Les Mignons. Je l'ai appris, du coup, hier soir. Musée d'Orsay. Où ça? Ah oui, t'as raison, c'est le musée d'Orsay. Ouais, c'est les toits du musée d'Orsay. C'est ça, c'est le musée d'Orsay. Ouais, t'as raison. Et juste derrière, il y a la rue de Solferino avec le Parti Socialiste. C'est la seule raison pour laquelle je connais le musée d'Orsay. Pardon, chacun ses refs. En plus, les PS, ils sont plus rue de Solferino, c'est fini. Ok, donc musée d'Orsay, le cinéma, tout ça, d'accord. Les Mignons, c'est français, je savais pas. Très bien. C'était rigolo. Les Mignons dans un sous-marin. Qui font les sportifs. Oui, bon, d'accord, très bien. La Joconde sur la Seine, moi je trouvais ça marrant parce que du coup ils ont volé la Joconde, il n'y a plus la Joconde, se retrouve sur la Seine à cause des Mignons, mais à partir de là on la verra plus. Donc j'étais en mode ouais c'est rigolo mais du coup la Joconde, non, ça s'arrête là. Bon, ok, la Marseillaise chantée sur le toit, sur la verrière du Grand Palais. C'était insane. En vrai, c'était splendide. Alors déjà, la voix de la chanteuse, de la cantatrice est incroyable. J'ai oublié son nom, encore une fois. Je suis désolé, je suis un connard. En termes de culture, je suis désolé. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la politique, mais la culture, moi, je suis nul. C'était incroyable. Axel Saint-Cyrel, merci. Je l'ai lu hier soir sur Twitter, mais j'ai oublié. Axel Saint-Cyrel, sur le toit, sur la verrière du Grand Palais, qui chante la Marseillaise. Bravo. Là, on arrive sur les statues des grandes femmes de l'histoire de France. Un mot sur l'hommage au 17 octobre 61 par la délégation algérienne. Alors oui, tu as raison. Alors je ne sais plus à quel moment ça a eu lieu dans la cérémonie. J'ai appris ça, que la délégation sportive algérienne a décidé de rendre hommage aux Algériens qui ont été tués par la police française en 1961 à l'issue d'une manifestation qui en réalité était un massacre, où des Algériens ont été massacrés par des policiers français et des Algériens ont été jetés dans la Seine. On était en pleine guerre d'Algérie, on était à un moment crucial et assez charnière dans l'histoire de relations entre l'Algérie et la France, bien entendu. Et les sportifs algériens, vu qu'ils étaient sur un bateau sur la Seine, ont décidé de jeter des roses dans la Seine en hommage à ces Algériens, assassinés. C'était un très beau geste, je trouve, de la part de la délégation algérienne française, de faire ce clin d'œil, cet hommage et ce clin d'œil à l'histoire de France qui s'est jouée, et à l'histoire de l'Algérie qui s'est jouée dans la Seine précisément. Donc c'était un très bel hommage, ouais. Ouais. Bien vu, bonne idée. On a... Bon, ça en termes de réal. En fait, le problème qu'ils ont eu, c'est que donc ils ont commencé à faire sortir des statues comme ça, de grandes femmes, de leur pupitre, de leur piédestal. Le problème, c'est que l'écrasante majorité des gens qui regardent à la télévision dans le monde entier cette cérémonie, ils savent pas qui c'est, les meufs. Donc ils ont mis à l'écran des informations pour savoir qui c'est, pour expliquer aux gens du monde entier dans plusieurs langues qui est la nana qu'on est en train de montrer. C'est bien, c'est une bonne idée. Le truc, c'est qu'ils ont choisi un truc là, un petit peu discutable en termes d'esthétique d'image. C'est chargé, il y a des infos à gauche, il y a des infos à droite, il y a des dates, bref, c'est dégueu. C'est dégueu, mais en même temps, il fallait qu'ils mettent des infos à l'écran, parce que sinon, pour les gens qui regardent, c'est incompréhensible. Donc voilà, on va pas toutes les faire, hein. Vous les avez vues hier soir, Olympe de Gouges, Alice Milia, Gisèle Halimi, Paulette Nardal, Jeanne Barbet, Christine de Pizan. Voilà, donc c'est des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de France. Louise Michel, la révolutionnaire en 1790. Alice Guy, Simone Veil, Donc voilà, la France a décidé de montrer au monde entier les visages de grandes femmes qui ont marqué l'histoire. L'histoire de France, mais aussi l'histoire du monde. Perso, j'en connaissais aucune, donc sans les infos, j'aurais juste zappé. Non, non, mais je comprends. C'est pour ça que les infos, elles avaient leur place, hein, c'est normal. 1870. J'ai dit quoi ? J'ai dit 1890, pardon. C'est 1870, la Commune de Paris l'année suivante. Louise Michel a été ensuite déportée. Et le tout sur fond de Marseillaise chantée par Axel. Incroyable, les images sont belles. Cette image, elle est magnifique. Regardez le dôme des Invalides derrière. Putain, c'est beau. Et encore, je pense que la caméra bouge, non ? Non, elle bouge pas. Fais un vieux zoom. C'était ouf. Très très belle Marseillaise. Alors là, on arrive sur le truc, sur la sportivité. Il y avait des barges fixes là. Et moi, quand je regarde ça, je vois le sol de la barge. Et je me dis, attends, ça m'a l'air d'être un peu du plexiglas là, votre sol. Vous êtes sûr ? Faites ce que vous voulez, hein. Je suis personne, mais il pleut quoi. Et effectivement, sur ce plan-là, tu vois qu'il y a des rampes pour faire du skate et du BMX. Et moi, j'ai vu ça, j'ai fait non, ils vont pas faire de skate et de BMX. Non, c'est mort. Un truc à se péter la hanche parce que là, ça glisse de ouf. C'est hyper dangereux. Avec un style jardin à la française, effectivement, t'as raison. Ouais, la décoration, c'est un style jardin à la française, le nôtre. Style le nôtre. Donc voilà, donc il y avait ces barges-là avec les délégations sportives devant. Et il y a quand même eu du BMX. Moi, je veux dire, les sportifs qui ont fait ça, là, GG les gars. Vraiment. Déjà, tous les sportifs et tous les danseurs hier soir, GG. Vous avez tous été incroyables. Mais vous, vous avez fait des tricks sur un truc, sur la scène un peu bancale, qui glisse de ouf. Est-ce que c'était préenregistré ? Ah, tu crois que c'était préenregistré ? Attends, regarde la luminosité. Ah ouais, c'est enregistré, ouais. Ouais, c'est enregistré. Ouais, ils ont enregistré ça plutôt dans l'après-midi, ouais. ça a l'air enregistré, en vrai. Tu regardes les images, il fait beaucoup plus clair. Non mais très bien, ils ont le droit, hein. Ils ont le droit. Les gradins sont vides, mais c'est normal, c'était de la merde d'être sur place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'avais la possibilité d'être sur place, j'ai refusé. Je voulais pas être sur place. Sur place, c'est à chier, tu vois des bateaux défiler, t'es sous la pluie et tout. Non, faut être devant son écran. Hein. Une cérémonie d'ouverture des JO, c'est devant son écran qu'on en profite, c'est jamais sur place. Regarde, ça c'est pareil, cette image-là. Attends, j'ai un doute. Non mais regarde, le sol il est sec là. Le sol il est sec, et heureusement. Mais oui, mais ça c'est en plein après-midi que c'est filmé. Regarde là, ils sont à l'arrêt. C'est pas possible, non. Tu peux pas faire ça sur un sol mouillé. En live, ils bougeaient pas, ils applaudissaient. Bah ouais, non mais je les comprends. Hein. Bref, je les comprends, mais là c'est pareil, regarde, le sol il est trempé, tu peux rien faire sur ce bol, d'ailleurs il est pourri un peu comme bol. Qu'est-ce que c'est que cette courbe ? Bref, les délégations. Hop, alors lui c'était incroyable, j'ai oublié son nom encore une fois parce que je suis nul en culture, qui commence par faire du breakdance. Et qui enchaîne sur un chant lyrique. Non mais c'est trop bien. C'est Orlinski. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là le chat. Hein. Non mais c'est splendide. C'est du baroque. Ah, la musique c'est du baroque ? Putain, j'y connais rien, je suis définitivement nul. C'est mi-code, ouais. Donc ouais, il fait du break et ensuite il enchaîne sur du baroque. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est splendide. Toujours du baroque. Et c'était magnifique. Et c'était magnifique. On continue, on continue, on continue. On est toujours au même endroit. Rimka ? C'était Rimka ? Qui a rappé ?
Prince des villes comme Michel Berger, concentré sur les angles morts.
C'est Rimka, ouais. Pas mal, mais son texte était nul. Enfin, c'est pas grave, je lui en veux pas, mais le texte était pas fou, quoi. Je me dis que le rap français pourrait offrir des textes un peu mieux. Il raconte l'ascension dans Paris. Bref, je suis pas un très bon critique musical, mais surtout pour du rap, mais c'était très Jeux Olympiques, quoi. Voilà, c'est un peu mon problème. C'était très Jeux Olympiques comme texte. Ouais, vive le sport, la paix dans le monde, on se fait des bisous, quoi. Bon, d'accord. J'ai envie de te dire les valeurs de l'olympisme, c'est quand même pas ouf. C'est dur de faire un texte de rap dessus, quoi. Donc ouais, non, j'ai pas trouvé le texte incroyable, mais j'ai trouvé ça très cool que Rimka rappe pendant la cérémonie d'ouverture des JO. À l'inter, comment tu traduis ça ? Oh, ça, j'en sais rien. Ouais, la paix dans le monde. Off, on bombe Gaza. Tu bombes Gaza si t'es israélien. Moi, je bombe pas Gaza. Donc Rimka, ouais. Encore une fois, j'ai pas trouvé ça dingue. Et là, on arrive dans le moment où ça part en couille. Vous reconnaissez ce pont. Vous le connaissez, ce pont. Je crois qu'il a été gravé dans notre rétine collective pour les siècles des siècles. Ce pont. C'était légendaire. C'était légendaire. Alors, ne me demandez pas les noms des gens, c'est que des gens exceptionnels, mais moi je connais ni la mode, ni la musique. Enfin bref, je connais pas tous ces gens, mais tout ce que je sais, c'est que ce sont que des Français d'une part, et des Françaises, et que tous les costumes qui ont été portés ont été faits spécialement par des marques de luxe françaises. Donc la France a quand même quelque chose. Voilà, la France a quand même quelque chose à dire au monde. Et on a fait un putain de catwalk sur un pont au-dessus de la Seine pendant que les athlètes passent en dessous. Ça commence par un défilé de mode. Je crois que c'était très long ce truc-là, ouais. Ça commence à danser. En fait, ça commence à danser au moment où les Français arrivent, je crois, de mémoire. La Tunisie, c'est l'avant-dernier, je crois, un des derniers, non ? Voilà, t'as le porteur de flammes qui arrive, qui danse. Là, on a des plans de caméra sur où, déjà ? Parce que les épreuves de surf, elles auront lieu... C'est à Tahiti, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Tahiti. Je voulais pas me tromper. À Tahiti, pour les épreuves de surf. Et apparemment, de ce que j'ai compris, c'était en direct. C'est-à-dire que là, chez eux, c'est le petit matin. Il est genre 6h du mat. Et on leur a dit, foutez-vous sur la plage. On va faire une vue drone. Ça va durer 20 secondes. Et ce sera votre moment, les gars. Et surtout, j'ai bien aimé, parce que derrière, tu vois... Putain, j'ai pas du tout les droits sur cette musique. Mais qu'est-ce qu'elle était bonne, la musique, putain ! Moi... Donc vous voyez derrière la barque... Hop là, avec les rameurs qui donnent tout ce qu'ils ont. Voilà, on les a à peine vus. Ils ont attendu une heure dans l'eau avant de faire une ligne droite de 50 mètres. Et on les a à peine vus. Bon, la vue drone n'est pas dégueu. Allez, bravo, la vue drone était cool. La playlist était folle dingue. La playlist de ces JO était absolument folle dingue. Moi, je la mets dans mes veines tous les jours. C'était que de la musique française. C'était de l'électro, c'était de la techno. C'était fou. C'était fou. DJ Mehdi, mais DJ Mehdi, ils ont mis Signatune de DJ Mehdi, mais dans mes veines, tous les jours. Ils ont mis Udiams, ils ont mis Cerone, ils ont mis Gigi D'Agostino. Vas-y, ils ont mis Stardust. Donc là, voilà, le bateau français. Ça, ce plan, voilà, ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Hop, voilà. Les plans de Paris en hélico ou en drone. C'est splendide. C'est absolument somptueux. Mais ils auraient dû en mettre plus. C'est dommage. Et putain, on est sur la Seine, on est à Paris. Les bâtiments sont splendides. C'est très bien de montrer les bâtiments, mais montrer aussi des plans comme ça, quoi. Bon, je dis ça, moi je dis ça comme un connard de streamer qui a un seul plan de caméra sur sa tronche toute la journée. Je pense que les gens qui se sont chargés de la réal de cette cérémonie d'ouverture, ils avaient un cahier des charges de 200 pages avec un nombre de trucs dans lesquels ils devaient rentrer qui était impossible et que donc ils avaient juste pas de place pour mettre des plans comme ça, c'est tout. Voilà. Donc je les critique pas un quart de seconde, hein. Ces gens-là connaissent mieux leur métier que le mien. La météo a empêché beaucoup de plans en hauteur et vue du ciel. Ouais, c'est possible aussi, non, mais t'as raison. C'est pas grave. Et là, bon...
On n'a jamais vu cela.
Comment vous dire ? Ah, on a vu Macron et... Voilà, Macron qui tire la tronche. Il n'y a que Brigitte qui sourit. On n'a pas beaucoup vu Macron dans cette cérémonie d'ouverture. Ce qui est pas plus mal. On l'attendait pas beaucoup plus que ça. Disons que... comment dire ? La France a des choses mieux à offrir que Macron au monde. Et ce sont ces choses-là qu'on a décidé de montrer dans cette série d'ouverture, et c'est une bonne idée. Voilà, c'est très bien. C'était bien. Non, c'était bien. Voilà. Ce plan, il était splendide. Et là, alors là, mesdames et messieurs, là, c'est le moment où j'ai augmenté le volume de la musique. Toute cette séquence sur cette barge-là avec les danseurs est folle. Les danses sont folles, les musiques sont folles, les plans de caméra sont fous. Je vais pas vous mentir, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Je crois que j'ai pleuré un peu plus tard. Ça, c'est le plan sur l'Europe, machin. Je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. Là. Voilà. Piche. Free from desire. Moi, j'ai pleuré. c'est à ce moment-là que j'ai chialé. Il y en a d'autres, c'est Céline Dion. Il y en a d'autres, c'était la Marseillaise. Il y en a d'autres, c'était machin. Là, moi, émotionnellement, j'étais à un point où j'ai craqué à ce moment-là. Piche sur Free from desire. Et toute la suite, parce qu'après, ils ont enchaîné sur Darud, ils ont enchaîné sur des dingues, les danses étaient barges, les danseurs et les danseuses étaient incroyables, ça dansait à la fois sur le catwalk, et le catwalk mouillé par la pluie, c'était splendide, moi j'adore, à quatre pattes sur un catwalk mouillé, je trouve ça splendide en fait, la pluie ça marche bien, et c'est ce que je vous disais, regardez, à ce moment-là de la soirée, la pluie sur les objectifs des caméras, ça donne du bokeh, ça donne des trucs un peu esthétiques avec lesquels tu peux jouer ou dont tu peux te satisfaire, et franchement c'était plus que satisfaisant. Regarde, ça marche bien. Et cette barge, c'était incroyable. J'ai pas le droit de vous faire écouter la musique, mais cette musique, cette playlist, mais... Ouais, donc voilà, donc moi là, j'avais quand même les yeux très humides, hein, je pleurais, j'étais en mode c'est incroyable, c'est fou. Il y a du crump, il y a du... Ça, cette danse, elle est barge. Au moment de la musique, regarde. Pile poil le moment.
La danse contemporaine.
Au moment où elle dit « Be my lover », ils s'embrassent. T'es en mode « Mais c'est pas possible de synchro aussi bien une chorégraphie sur un pont, en pleine nuit, alors qu'il pleut, avec des caméras partout. Mais c'est pas possible. » Et ces danseurs, mais... C'était fou. Nick Idol. Ça, putain. Avec Gigi D'Agostino derrière.
Sonny Boy et Peur pour le Breaking.
Mais regarde-moi ça, mais c'est incroyable. C'était fou. C'était fou. Je suis désolé, hein, j'ai pas beaucoup d'autres commentaires à vous dire que c'était fou. Moi, ce spectacle, là, toute cette partie sur la barre, je l'ai re-regardé déjà 4 fois depuis hier soir. Ce matin au réveil, en fin de matinée, en début d'après-midi. La danse traditionnelle alsacienne. Mais what the fuck? Let's go! On y va! Bon, j'ai pas les droits à l'image, je peux pas vous le montrer, j'ai pas le droit. Toute cette partie-là était folle, toute cette danse était folle. Non, attends, c'était plus tard. Voilà, toute cette danse-là, moi j'ai trouvé ça incroyable. Alors après, donc du coup, t'as le moment où t'as Philippe Catherine qui débarque. Voilà, Philippe Catherine. Très grand moment. Très grand moment. Très drôle, très décalé, très français. Très, très, très Philippe Catherine. C'était génial. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Notamment parce que j'ai vu que sur Reddit, les Américains, ils comprenaient rien. Les Américains sur Reddit, ils pétaient un plomb sur cette séquence en disant « Mais c'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un génie French bleu tout nu ?» Et t'es en mode ouais, c'est nous, ouais. Ouais, c'est la France. On vous présente Philippe Catherine, si vous ne connaissiez pas. C'est une fierté nationale. C'était très important de l'avoir dans la cérémonie d'ouverture. Oui, les Américains, ils cherchaient la ref. Les Américains, ils ne comprenaient pas, ils cherchaient la ref. Ils n'avaient pas la référence Dionysos, évidemment. Enfin, je dis évidemment, pardon, c'est très insultant pour les Américains. Mais donc, ils sont allés chercher dans Avatar. Ils sont allés chercher dans Le génie de la lampe d'Aladin. Ils ont essayé de comprendre. Ils ont sorti les Schtroumpfs aussi. Le Bacchus aussi, le Bacchus bleu, ouais. Donc voilà, non, c'est Philippe Catherine. C'est Philippe Catherine, mesdames et messieurs. C'est ce que la France avait de mieux à offrir au monde. Et en vrai, c'était parfait. Alors j'ai entendu dire aussi, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire que cette partie a été censurée dans beaucoup de pays. C'est vrai ou pas? C'est spécial quand même. Ah, c'est spécial, c'est Philippe Catherine. Oui. Ouais, ça a été censuré en Algérie, au Maroc. Ouais, ok. Bah, pas étonnant malheureusement dans ces pays-là, mais ouais. Ils ont fait une pause pub aux États-Unis ? Non, tu déconnes. Ils ont fait une pause pub aux États-Unis ? Ah, les ricains. Et alors là, à partir de ce moment-là, la musique est incroyable.
Et je remets le son.
Et là, cette choré est folle. Déjà, j'avais de l'admiration pour les danseurs, mais là, toute cette partie-là... Je peux pas la diffuser, mais ils ont une énergie, ils ont une patate, ils dansent bien. C'est beau. Et les mecs, ça fait déjà 30 minutes qu'ils dansent. Hein. Toute la partie French Touch, c'était fou. La musique est folle, la barge qui s'illumine au sol, c'est absolument magnifique, les plans de caméra sont fous. Ce passage, bon, j'avais déjà pleuré, je pouvais pas pleurer une deuxième fois, mais j'étais pas loin. Hein. J'étais vraiment pas loin. C'était incroyable. Alors, Imagine on the People, chanté par Armanet. Très beau. Juliette Armanet, ouais. Très beau. Très joliment chanté par Juliette Armanet. Le piano en flamme derrière, j'ai trouvé ça joli. Non, il s'allume quand ? Il s'allume là. J'ai trouvé ça joli. J'avais pas la ref. J'avais pas la ref, mais apparemment... Imagine All the People est une chanson qui est chantée à chaque cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En fait, c'est un passage un peu obligatoire. Oui, c'est Imagine le titre de la chanson, c'est vrai, t'as raison. Donc, du coup, bon, bah voilà, il fallait le faire. Donc, ils ont décidé de le faire avec Juliette Armanet, un piano en feu. Très bien, c'est un bon choix de le faire puisqu'il fallait le faire. Mais c'est vrai que c'est pas une chanson française. Tu te dis, tiens, c'est bizarre qu'ils chantent ça, etc. Bon. C'est chanté depuis les JO d'Atlanta. Ah oui, c'est ce que j'avais lu. J'avais lu ça. Chanté depuis les JO d'Atlanta. Et ça, bah, ça symbolise les. On en reparlera, mais les valeurs de l'olympisme autour de la paix dans le monde, le dialogue interculturel par le sport, etc. Bon, d'accord, c'est un peu cucul la praline. C'est gentillesse, c'est pas méchant, ça blesse personne. Bon, j'ai trouvé ça joli. J'ai trouvé ça. Après, j'aime bien Juliette Armanet à titre perso, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça joli. Juliette Armanet qui chante Imagine. Ensemble, unis pour la paix. Voilà. Ça, c'est les valeurs de l'olympisme, mesdames et messieurs. D'accord. Bon, c'est un peu Miss France, quoi. Je veux la paix dans le monde. Je veux qu'il n'y ait plus aucun enfant qui souffre. Oui, d'accord. Oui, moi aussi. Bon, après, il y a toute la partie avec le cheval qui remonte la scène. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, j'étais un peu en mode Osef, j'ai trouvé ça long et chiant. Mais il y en a plein qui ont trouvé ça magnifique, magique, splendide. Très bien, ok. Stylé et tout, ouais. C'était trop long. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mama. C'était trop long. Mais non, je sais pas. Ouais, après, j'étais peut-être un peu fatigué à ce moment-là. J'avais eu ma dose d'émotion. Ah oui, putain, c'était entrecoupé d'images. Alors ça, je me souviens. Attends, regarde ça. Et là, t'as un retour sur le cheval. Voilà. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, il y a plein de gens qui doivent se dire, c'est qui? Pourquoi il y a un vieux qui apparaît à l'image? Pourquoi il y a un vieux en moustache, en noir et blanc, qui pop au milieu de l'image de la... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le jumpscare, mais oui, c'est ça. Donc, ouais. Bon, voilà, c'est Pierre de Coubertin. Voilà, forcément, Pierre de Coubertin, tout ça. Donc moi, au début, vraiment, quand ils ont fait popper Pierre de Coubertin, je me suis dit, putain, il y a plein de... Là, typiquement, ils auraient dû l'écrire à côté, Pierre de Coubertin, avec c'est qui le mec? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le monde qui se sont dit, c'est qui le moustachu? Donc, ouais. Donc, Pierre de Coubertin, et en fait, alors du coup, j'ai pas compris pourquoi ils ont foutu la tronche de Pierre de Coubertin, hein, sans expliquer à côté c'est qui. Et en fait, j'ai compris après, c'est qu'il y avait plein d'images entrecoupées. Attends, non. Il y avait plein d'images entrecoupées autour de l'histoire contemporaine des Jeux Olympiques. Et là, j'ai commencé à comprendre. Je fais, ah d'accord, en fait, c'est un diapo des Jeux Olympiques. Et du coup, ils vont montrer des images. Alors, au début, forcément, tu vois ça, t'as pas la ref. Moi, je sais pas qui c'est, les moustachus, là. Je les connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas si... En plus, ça a l'air d'être des militaires à moitié, je comprends rien. Mais en fait, au fur et à mesure, tu comprends parce qu'ils te mettent des images un peu plus récentes, avec les premiers exploits sportifs, avec machin... hop, et voilà. Et là, t'arrives dans les images où, effectivement, oui, on a tous vu ces images. D'accord, c'est les plus grands moments de l'histoire des Jeux Olympiques contemporains, les Jeux de Mexico, les Jeux d'Atlanta, etc. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Donc, c'était pas trop dégueu, je trouve, comme diapo. Et à la fin, on arrive avec tous les drapeaux de tous les pays. Alors moi, bon, quand même sur le cheval, là. Le cheval, bon, j'en avais un peu rien à branler. Mais par contre, je me suis quand même posé la question. C'est quoi le bateau qu'ils ont conçu? C'est quoi cette espèce de semi-submersible, là? Vraie question de geek. Comment ils ont... C'est quoi le... Il était tracté ou il était motorisé? C'était tracté, d'accord. Donc il était tracté par le bateau devant. Donc c'était pas motorisé, c'était tracté. Ok. Ok. Je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux de c'est quoi la techno, vous avez fait comment. Quand même, c'est impressionnant. Hein. C'est à moitié immergé. Nelson Mandela. Évidemment, le sport en Afrique du Sud, très important dans l'histoire politique du pays. Ça, c'est beau, ça. Tous les porteurs de drapeaux qui attendent la flamme. Le cheval, il a été fait à Nantes. Ah, il a été fait à Nantes par les gens qui font les machines de Nantes.
Ah, trop cool. Bah, GG. Cette image est très belle, hein, sur le pont devant le... Devant le... La Tour Eiffel. Je cherche le nom de l'antenne radio, là. Vous savez, la grande antenne, là. Tour Eiffel. Les images. Et le dada. Le dada qui arrive, j'ai pas compris. Mais là, de toute façon, à ce moment-là, j'avais un peu décroché mon cerveau. Hein. J'ai un peu décroché mon cerveau parce que du coup, ils ont pris un dada pour faire 100 mètres, c'est ça? Avec les porteurs de drapeau derrière, ok, super. Ouais, non, l'image est belle. L'image est belle, c'est joli. Mais c'est joli vu comme ça. Arrêtez de nous filmer ça, on s'en branle. Filmez-nous ça, voilà, ça, c'est une belle image. C'est le cheval de la Seine. Bah oui, j'ai compris, le truc est arrivé jusqu'au pont et du coup, il y a un cheval qui sort. Non, mais j'ai compris, mais bon. C'est le drapeau olympique, en fait, qui arrive, c'est pas la flamme. Donc le drapeau olympique qui va être apporté, voilà, à pied. Là, c'est toutes les délégations du monde, hein, qui sont présentes autour du podium. Hop, qui va être apporté à ces différents officiers de différents corps, visiblement, parce que là j'ai l'impression que c'est de l'armée de terre, ça j'ai l'impression que c'est de la marine nationale, ça j'ai l'impression que c'est de la gendarmerie nationale, et ça c'est la police nationale. Non ? Ils sont gourés de sens. Non, tu déconnes, ils l'ont mis à l'envers ? C'est pas vrai. Attends, ils ont pas fait ça. Ah si. Si, c'est à l'envers. C'est la France, mesdames et messieurs. Le monde entier nous regarde. Bonjour. Et là, ils vont le filmer à l'envers ? Il va pas se déployer complètement parce que là ils ont mis un gros ventilateur. Hein. Vous avez bien compris qu'ils ont mis un gros ventilo, il n'y a plus de vent. Et effectivement, il est à l'envers. Merde. Ça, c'est ma France. Avec la chorale qui chante quoi déjà ? Ah, c'est l'hymne olympique ! L'hymne olympique, je connaissais pas et je préfère l'hymne de la FIFA. Voilà. Si on me demande. Non, de l'UEFA. Un peu aux F-tiers, mais pareil, ça fait... Alors ça, c'est le problème, en fait, des cérémonies d'ouverture, c'est qu'il y a des passages obligés. Donc visiblement, Imagine, c'est un passage obligé. Le drapeau, c'est un passage obligé, oui, d'accord. Et il y a le moment un peu lunaire où le président de la République... Alors voilà, alors ça, putain... Là, ça fait 3 heures qu'on en prend plein la gueule, qu'on est ému, etc. Et là, ils nous sortent un espèce de court-métrage pour dire qu'ils remettent les palmes olympiques... à l'ancien directeur du CIO, je crois, qui a fait de l'aide au développement dans les pays tiers. Ouais, Osef, hein, voilà, il reçoit sa palme. Peut-être que, en fait, le problème. Enfin, je suis désolé, mais on sait pas qui c'est le mec, on s'en branle un peu. C'est le créateur de la Refugee Team. Ouais, je crois que c'est l'ancien patron du CIO qui a créé la team des réfugiés. Mais c'est le protocole. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, c'est le protocole, c'est obligatoire. Non, mais c'est obligatoire, d'accord. Bon, bah, c'est obligatoire. Filippo Grandi, lauréat du coup des Palmes Olympiques. Félicitations à lui. Ça a l'air d'être un monsieur extraordinaire, génial, formidable. C'est juste que ça jure un peu dans la cérémonie qu'on vient de vivre, quoi. Et à partir de là, en fait, c'est ça le problème, c'est que la cérémonie d'ouverture des JO n'est pas une montée en puissance vers un climax. C'est une montée en puissance qui, en fait, finit en eau de boudin. À un moment, enfin, finit pas vraiment notre boudin, parce que du coup, il y a toute cette séquence où on parle des réfugiés, et c'est bien, c'est important. Il y a l'interview du mec, super, ça dure un peu longtemps, il fait coucou. Là, on a le discours de Tony Estanguet, nul, le discours de Tony Estanguet, nul. Tony Estanguet est un mec formidable, génial, bravo à lui, félicitations pour ses JO, tout ce que tu veux. Pas bon, son discours. Non, mais long et surtout nul, enfin, surtout, voilà, alors que... Après Tony Estanguet, il y a eu le discours de l'actuel patron du CIO, le Comité International Olympique, en anglais, là, lui. Ouais, tu parles trop, Tony. Tu parles trop. Voilà, lui. Et ben lui, son discours, je l'ai trouvé mieux. Toujours dans le genre discours un peu naze. C'est pas non plus des grands discours, hein. Je trouvais qu'il disait plus de choses, quoi. T'abuses, c'était OK. Ouais, j'abuse peut-être. Mais je trouvais que c'était mieux. Non, mais pour, en fait, nul dans le sens où. Mais c'est tout le pro, c'est, en fait, c'est le problème que j'ai avec l'olympisme. C'est que l'olympisme, c'est cucu la praline et c'est issu de. C'est un tissu de bonne volonté, de bonnes ambitions, de belles valeurs mises en avant et tout le monde s'aime et c'est important et c'est la paix dans le monde, etc. C'est ce que j'appelle les discours Miss France, quoi. C'est un peu creux, c'est un peu vide, c'est gentil, ça blesse personne. Ouais. Après ce qu'on vient de voir, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais le parallèle avec ce qu'on vient de voir au cours de cette cérémonie d'ouverture, où à travers la musique et la danse, on a montré quand même des messages politiques plus forts. Il y a quand même une affirmation. Il y a quand même une affirmation d'un certain nombre de valeurs, de diversité, d'égalité, de liberté, de fraternité, de culture, de modernité. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une cérémonie qui disait des choses. Et là, t'as des discours qui disent rien. T'aurais aimé quoi? J'aurais aimé des discours plus engagés. Des discours qui disent ce pourquoi on fait du sport. Ce pourquoi on se bat quand on fait du sport. Ce pourquoi il ne faut rien lâcher. La nécessité de défendre les réfugiés partout dans le monde. La défense des personnes LGBTQIA+, qui dans le monde entier sont opprimées. Enfin, je sais pas. Des trucs un peu plus précis que juste la paix dans le monde. Mais je suis peut-être trop exigeant. Alors voilà, donc là, il y a le moment un peu nul.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Voilà, nul. Je veux dire nul. Encore une fois, passage obligé. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de nécessaire. C'est pas absolument... Ok, c'est un passage obligé, d'accord. Le président dit « je déclare ouvert les Jeux Olympiques », super. Très bien. Il n'y a rien à en dire, ça aurait pu être n'importe qui à sa place, ça aurait été pareil. Il y a des gens qui disent qu'il se fait huer pendant ce temps-là. J'arrive pas à savoir si c'est des huées ou si c'est le niveau normal de son des athlètes.
Les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Non, c'est pas des huées, on est d'accord. Vous pensez que c'était des sifflets politiques? C'est un mix entre les gens qui savent pas ce qui c'est et ceux qui savent. Moi, je pense pas, hein, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'était le niveau sonore lambda de n'importe quel connard qui prend la parole, de toute façon. C'était pareil pour Tony Estanguet, tu vois. Tony Estanguet qui dit que Paris est magnifique. Wouh, super, ouais! Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec vous, c'était pas du huée. Et de toutes les manières, on s'en branle. C'était pas le moment le plus important. Là, on arrive au moment. Alors, il y a la prestation de serment des sportifs, des machins, d'accord, je prête serment, je jure que je vais pas me doper, que je vais pas tricher. Zim, dim, zim, dan. Tac. Qui arrive, qui chope la flamme, qui se dirige vers Raphaël Nadal, qui chope la flamme et qui va vers la scène. Et là, on arrive sur le show lumière de la Tour Eiffel. J'ai pas les droits. Mais ce que je vous disais, c'est quand même qu'ils ont installé un niveau technologique que j'ai jamais vu sur la Tour Eiffel. On n'a jamais vu ça. Hein. Une Tour Eiffel avec des lasers à ce niveau-là, avec, regardez, tous ces jeux de lumière sur la Tour Eiffel, complètement incroyable. On n'a jamais vu ça. Et c'était absolument splendide. C'était absolument incroyable. Bon, j'ai toujours pas les droits à l'image, mais les lasers, la musique était belle, etc. Ça claquait. C'était très très cool. Ouais, bon, pareil, le truc de Pierre de Coubertin qui a dessiné les anneaux olympiques pour les 5 continents, d'accord, super. Et le bateau qui se casse avec les sportifs à bord. Alors lui, j'ai oublié son nom, mais j'ai trouvé ça splendide ce qu'il faisait. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il est chansigneur. C'est-à-dire qu'il est malentendant et que quand il danse, en fait, c'est pour signer pour les malentendants. C'est trop bien. Avant même de savoir que c'était du chansigne, je savais même pas que ça existait. Avant même de l'apprendre, je trouvais ça trop cool ce qu'il faisait. Je le voyais, il bougeait bien et tout. J'étais en mode non, c'est cool, j'aime bien et tout. Ah en fait, il signe des trucs là.
Ouais,
trop bien. GG. Avec la pluie, c'était incroyable. Voilà, pareil. La pluie aussi était belle à ce moment-là.
Franchement, bah, ça me dérange pas du tout qu'il pleuve quand t'as un mec qui danse comme ça sur un podium. J'aime bien le fait qu'il y ait de la flotte et tout, je trouve ça cool. Bref, c'était vraiment magnifique. Ça, c'était son interprète à lui, j'ai cru comprendre. Qui lui signait des trucs. Mais c'est incroyable. Moi, je vais me renseigner un peu sur le chansigne, je connaissais pas, je trouve ça bluffant et très beau. On remonte la scène, on danse, c'est chouette, tac 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 tac, jeu lumière, jeu laser. Amélie Mauresmo. Alors me demandez pas les noms des sportifs, j'y connais rien. Lui c'est Teddy Riner. Elle c'est Amélie Mauresmo. Elle Je déconne, calmez-vous. Tout va bien. Bon quand même la pyramide du Louvre, c'est beau hein. Non, parce que, enfin, pardon, mais moi je fais le blasé parce que j'habite à Paris, je connais, etc. Mais en vrai, c'est splendide. Merde, on est quand même en train de transporter la flamme olympique de nuit devant la pyramide du Louvre, un des plus beaux bâtiments du monde. Ça claque. Là, il passe sous le carrousel du Louvre. Ok, c'est magnifique, j'adore. On continue, encore plus de sportifs, des sportifs, beaucoup de respect pour les sportifs. J'adore le sport. Hein. Vraiment, vous me connaissez, j'adore le sport. Je connais les noms de toutes ces personnes par cœur ainsi que leur palmarès. Alors, lui, par contre, je le connais parce que c'est un ancien ministre. Lui c'est l'amour. Je sais plus si c'est Jean-François ou François son prénom. Il a été ministre des sports. Voilà, ancien escrimeur, c'est ça, voilà. Je le savais. Je le savais. Donc ancien escrimeur, champion olympique hein, d'ailleurs, donc voilà, et puis plus tard ministre de droite. Et David Douillet, ancien judoka, puis député de droite, puis secrétaire d'État de droite. Ouais, David Douillet. Vous voyez le sport, la politique, tout ça finalement, tout est lié. C'est splendide. Là, l'avant-dernier à prendre la flamme olympique, c'est le plus âgé des médaillés olympiques, encore en vie, français. Je sais pas qui c'est. Et il tend la flamme à Marie-Josée Pérec. Donc c'est bon, on a la réponse, c'était bien Marie-Josée Pérec. David Douillet, ministre des Sports aussi. Ouais, il a été ministre des Sports, David Douillet, il a été ministre des Français de l'étranger. Qu'on appelait les UMP de l'étranger à l'époque. C'est Charles Coste. Un cycliste. Donc Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, les deux derniers porteurs de flamme. Donc ça, c'est très chouette, hein, c'est la grandeur du sport français. Et là, on arrive vers un ballon, et moi, je suis en mode attends. Ils vont quand même pas foutre le feu à la base du ballon, puis ensuite l'envoyer en l'air. Non. Ils vont pas faire ça. Et en fait, ils vont complètement faire ça. J'avoue, ça claque. Bon, en fait, il faut savoir que c'est pas du feu. Parce que du coup, je me suis posé la question. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Attends, parce que je suis un peu ingénieur. Comment tu maintiens en vie un feu qui brûle sur tout le pourtour du truc à 30-40 mètres de haut? Est-ce qu'ils ont un tuyau qui envoie du gaz et ils font cramer du gaz? C'est pas très écolo. Est-ce que, je sais pas, il a redescendre toutes les deux heures pour lui remettre du fuel? Comment ils font? Et en fait, c'est pas du feu. J'ai appris que c'était pas du feu. C'est pas du feu, en fait. Ce que vous voyez, en fait, c'est un système de vapeur d'eau projetée et éclairée par des lumières aux couleurs des flammes.
Wow.
En vrai, ça marche. La musique est à chier. Mais ça marche. D'ailleurs, ça se voit parce que la lumière arrive avant les flammes. Ouais, j'ai vu. Non, je trouve que ça marche bien. Puis bon, c'est plus écolo, parce que c'est vrai que faire cramer un truc en continu, faut une réserve de gaz, c'est chiant. Donc, c'est je valide. Hein. Moi, je valide cette flasque olympique qui brûle au ciel de Paris. Et là, évidemment, l'émotion. Ah là, l'émotion.
Si tu m'aimes, je m'en fous.
J'ai pas les droits. Céline Dion qui est venue chanter pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris depuis le premier étage de la Tour Eiffel face au Trocadéro. L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Incroyable. Incroyable parce que, de ce que j'ai compris, Céline Dion est atteinte d'une maladie qui l'a fait souffrir horriblement. Et elle ne s'est pas produite sur scène depuis plusieurs années. Depuis 4 ans, on ne l'avait pas vue sur scène. Donc, oh, quand même. C'est quand même extraordinaire. J'ai littéralement pleuré. Il y en a beaucoup qui ont pleuré à ce moment-là, ouais. Ouais, ouais. C'était pas mon cas, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai pleuré plus tôt, mais c'est splendide. Et elle chante divinement bien. Enfin, c'est Céline Dion, quoi. C'est quand même sur un niveau. Puis cette image, enfin voilà, Céline Dion sous les anneaux olympiques, la Tour Eiffel. T'as pleuré à quel moment ? Moi, j'ai pleuré au moment du truc sur la barge là avec la techno européenne. Je sais plus à quel moment j'ai pleuré, si c'était sur Gigi D'Agostino. Je crois que c'était sur Gigi D'Agostino. Il y a un mec qui a tweeté, c'est vrai. Il y a un mec qui a tweeté, c'est vraiment une playlist de trentenaires parisiens. J'étais en mode, ouais, c'est moi. C'est moi. Ouais, ouais. C'est ma playlist. Ça, cette playlist-là, c'est dans mes veines. Toutes les chansons les unes après les autres. C'était parfait. Donc ouais, non, c'était extraordinaire. Céline Dion, cette image est splendide. Alors les lights sont un peu trop fortes. C'est dommage, on voit pas très bien le Trocadéro, mais... Mais c'était extraordinaire. Le Jardin des Tuileries. Et cette image de France 2 qui est restée un peu trop longtemps. D'ailleurs, vous les entendez... galérer. Ça s'appelle un décrochage en audiovisuel.
Ok. Je vais prendre ta place, Laurent.
On y va.
Et ils sont pas censés être à l'antenne, là. On est censés... Cut, Michel. Faut que j'aille pisser. Et Daphné qui pleure. Ouais, Daphné qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Mais je comprends, vu tout le travail qu'elle a abattu... sur toute cette cérémonie d'ouverture depuis tant d'années, c'est quand même très très émouvant. Donc ouais, non, donc voilà, ouais, c'était vraiment intéressant comme cérémonie d'ouverture parce que ce que je vous disais, ouais, moi j'ai commencé sans trop y croire, l'air de rien, en disant vas-y, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble cette merde, et ça c'est monté crescendo et à partir de Gojira, mes yeux se sont écarquillés. À partir de Aya Nakamura, ma mâchoire s'est décrochée. Et à la fin, là, le catwalk, j'ai pleuré. Je m'attendais pas du tout à chialer sur cette cérémonie d'ouverture. Tu m'aurais dit 5 heures plus tôt, au fait, ce soir, tu vas chialer tout seul comme un connard chez toi. J'aurais fait, mais n'importe quoi, ça va. Eh, je suis un bonhomme, moi, je pleure pas, hein. Ça va, hein. Attends, c'est bon, hein. C'est un truc de fragile de pleurer. Tu penses que ça a gâché la chose qu'il y ait du playback ? Pas du tout. Absolument pas. C'est totalement normal qu'il y ait du playback sur ce genre de presta-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, encore une fois, sur ce à quoi on a assisté hier soir, c'est un des plus grands tours de force de l'histoire de la production audiovisuelle. On n'a jamais vu un truc pareil, avec autant de caméras sur une aussi longue distance, produire un show aussi timé, etc. C'est totalement normal qu'il y ait du playback. Tu ne peux pas capter dans de bonnes conditions la voix et avoir une impédance nickel qui te permet d'avoir une synchronicité entre les lèvres et le playback, et pas le playback du coup, et la voix. La Marseillaise d'Axel Sinclair sur le toit, d'Axel Saint-Cyrel sur le toit, c'était incroyable, c'était magnifique, c'était splendide, la Marseillaise d'Axel Saint-Cyrel. Donc ouais, non, c'est... Sauf Céline. Alors Céline, peut-être que c'était en direct, parce que Céline, c'était la toute fin. C'est plus facile à faire. Tu peux effectivement faire une capta live pour une Céline Dion, ouais. Ça, tu peux.
Elle était à un seul endroit, elle bougeait pas. C'est faisable. Compliqué, mais faisable. Gojira, c'était playback? Je sais pas du tout. Lady Gaga, je crois que c'était... Je crois que Lady Gaga, c'était pas du playback, c'était enregistré. Il l'enregistrait plutôt dans l'après-midi. C'est ce que je vous disais, en fait, les plumes de Lady Gaga, malheureusement... Le truc avec les plumes, là... Je vais couper le son parce que j'ai pas les droits. Ça, tu peux pas le faire sous la pluie, en fait. Genre, vraiment, là, y a un vrai problème technique. Les costumes et tout, sous la pluie, ça tient pas. Donc, ils ont enregistré peut-être plus tôt dans l'après-midi. Pour diffuser ensuite la version enregistrée. Ouais, il s'est cassé la gueule, le chanteur, ouais. Le danseur, pardon. Hop, c'est normal. Mais ouais, non. Pour moi, les trois trucs qui m'ont le plus plu, c'est effectivement Gojira. Aya Nakamura et la garde républicaine, la Marseillaise d'Axel Saint-Cyrel, et toute la partie sur la barge à la fin avec la techno, l'Eurodance. Toute la partie est folle, du début à la fin, les défilés sont fous, les danses sont folles, la musique est pixel. Philippe Catherine, ça m'a fait marrer, c'était le but. John Lennon par Armanet, j'ai bien aimé John Lennon par Armanet. J'ai bien aimé, c'était joli. Non mais alors, si je rajoute les trucs que j'ai bien aimé, oui, j'ai bien aimé Lady Gaga, j'ai bien aimé le French Cancan, j'ai trouvé sa classe, j'ai bien aimé Céline Dion, j'ai bien aimé Armanet. Oui, oui, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé, il n'y a pas grand-chose que j'ai profondément détesté. À part toute la cérémonie au Trocadéro qui était un peu trop... passage obligé, oui d'accord, c'est les JO... La pub LVMH, ben moi j'ai pas détesté la pub LVMH, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. L'artisanat de luxe, c'est quand même une spécialité française qui rayonne dans le monde entier, donc je comprends qu'il l'ait mis en avant. Le vol de la Joconde par les mignons, ouais c'était marrant. L'ensemble de la cérémonie était une pub, ça n'empêche pas d'apprécier. Ouais, c'était complètement une pub. Une pub pour la France. Enfin, pour Paris, pour la France et pour les Jeux Olympiques. C'est le principe d'une cérémonie d'ouverture. Il ne fallait surtout pas s'attendre à autre chose. Il ne fallait surtout pas s'attendre à un truc politique engagé de gauche. C'était une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc on est clairement dans le classique. On célèbre la culture et le rayonnement du pays. On célèbre la ville. Et on célèbre les Jeux Olympiques et les sportifs. Voilà. Zizou Chris, c'était très drôle, ouais. Et pourtant, c'était cool niveau diversité et inclusivité. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était assez inclusif. Le défilé de drag queen et Marie-Antoinette décapitée, c'était un peu politique quand même. Macron était deg. Macron était pas deg du tout, il était totalement au courant, il est complètement validé. Ah non, non, si vous pensez avoir vu une cérémonie anti-Macron, vous allez être déçu. Hein. Les fachos ont pas aimé, oui, voilà ça. Je rappelle que Macron a été le premier président à inviter des queers à l'Elysée pour la fête de la musique. Hein. Ça avait beaucoup énervé la droite aussi à l'époque. Macron est facho. Bah tu vois, c'est typiquement une mauvaise analyse. Depuis hier, ça m'énerve sur Marie-Antoinette décapitée, mais c'est juste un fait historique en fait. Ouais, carrément, la manière qu'il a eu d'être mis en avant était absolument géniale. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait sur le...
la cérémonie qui a décidé d'assumer complètement l'histoire de France. Genre, on assume complètement d'avoir décapité Marie-Antoinette, on va pas le cacher, on va le revendiquer. Et on va faire un truc sur Saïra, chanté par une Marie-Antoinette décapitée, repris par Gojira en live depuis la conciergerie, quand même. Et avec Carmen, ensuite, qui chante l'opéra, quoi. Le feu, le sang de la Révolution, c'est trop bien. Faut que tu regardes le docu de France TV sur la préparation de la cérémonie, c'est en deux parties de 45 minutes, c'est hyper intéressant. Ah ouais, t'as raison, faut que je regarde ça. Intéressant. Ouais, je suis sûr qu'il y a plein d'infos que j'ai pas. Le moment de la révolution et Gojira m'a grave réveillé, je me suis dit que ça pouvait vraiment être cool. Ouais, moi aussi, je suis comme toi. Je suis comme toi. On le trouve où le doc ? Google. Je suis déçu que Mélenchon ait pas allumé la flamme ou chanté l'hymne à l'amour. À la fin, ça aurait plus de gueule. Best moment, Gojira. Ouais, Gojira, c'était incroyable. Gojira, c'était incroyable, c'était inattendu, c'était frais, ça marchait bien. Musicalement, ça marchait super bien. Les élus n'ont pas le droit de porter la flamme, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, je crois que c'est dans les conditions du Comité international olympique. Il ne peut pas y avoir de relais de la flamme par des personnalités politiques et engagées. Je crois que ça fait partie, de mémoire, ça fait partie des conditions. Perso, mon meilleur moment, c'est le cavalier. Ok, ok. C'est pas ce qui m'a marqué le plus, mais je comprends. Sauf pour David, mais David Douillet n'est plus un politique. Il est à la retraite. Jean-François Lamour, pareil, ancien politique. Pas de représentant politique en exercice. Ouais, exactement. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de vous lire. Hein. Je lis le chat. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut dire de plus sur cette cérémonie d'ouverture, si ce n'est que c'était très réussi. C'était très réussi. Encore une fois, la playlist, je vais la sauvegarder assez rapidement d'une manière ou d'une autre. Hein. Y a pas quelqu'un qui l'a foutu sur, sur un site déjà ? Si, il doit bien y avoir ça quand même. Et donc oui, effectivement, on a vu que l'extrême droite avait peu apprécié cette cérémonie d'ouverture qui symbolise tout ce qu'elle déteste, qui symbolise le libéralisme de Jean-Luc... Qui symbolise le libéralisme d'Emmanuel Macron, libéralisme sur les mœurs, libéralisme sociétal, culturel, etc. Et ça a pas plu à une extrême droite qui a un rapport beaucoup plus chauvin à la culture. Extrême droite qui déteste Emmanuel Macron et la gauche, évidemment la gauche, pour tout ce qu'elle porte. Et ouais, on a vu des drag queens, on a vu des queers, on a vu des hommes, des femmes, on a vu tout type de danse, et c'était aussi une volonté visiblement de célébrer toutes les danses. Macron est pour le libéralisme des mœurs ? Bah oui. J'espère que je vous l'apprends pas. C'est le retour du style Jack Lang un peu. Ouais, c'est ça. C'est Usul qui a dit on aurait dit qu'on était encore sous la gauche plurielle de Jospin.
Je suis assez d'accord. Ah, la playlist de la cérémonie, elle est sur Spotify. Let's go. Merci, Jésus Berry. Voilà, je me la suis ouverte. Hop. Let's go. C'est parfait. Elle est là. Il y a tout. Oh, mon Dieu, je la sauvegarde direct. Sauvegarder dans la bibliothèque. Télécharger. Ajouter la file d'attente. Même moi qui n'aime pas les religions, j'ai trouvé qu'ils ont abusé. À quel moment ? À quel moment est-ce que ils ont abusé sur la religion ? Il y a le début de la partie, la séquence sur le pont avec le catwalk, qui commence avec une évocation de la scène. La scène qui est un tableau de Léonard de Vinci, si je ne dis pas de bêtises, qui symbolise le dernier repas du Christ. La scène a été reprise un nombre incalculable de fois depuis des siècles. Ah, c'est Michel-Ange. C'est pas de Vinci. Non ? Si ? Je sais pas. Non, c'est de Vinci, c'est de Vinci. Non, tu m'as foutu le doute. La scène a été reprise un nombre incalculable de fois dans la culture populaire. Je vais le dire différemment. Le tableau de la scène de Vinci n'est pas un commandement divin. Il n'apparaît pas dans la Bible, il n'apparaît pas dans l'enseignement de l'Église, il n'apparaît pas dans l'enseignement du Christ, dans les évangiles, etc. C'est un tableau. C'est un tableau qui appartient, qui symbolise un moment de l'histoire du Christ et de l'Évangile, mais ce n'est pas un tableau religieux. Ce n'est pas une icône religieuse. C'est un mème. Voilà, c'est ça, c'est un mème. C'est une référence culturelle, scripturale. Pas scripturale, picturale. Tout le monde reprend la scène. Les Simpsons l'ont fait. Les Simpsons l'ont fait, évidemment. Et c'est pas les seuls. Donc, s'il se trouve des chrétiens suffisamment cons pour se sentir blasphémés parce qu'il y a une reprise du tableau de la scène, ces pauvres gens doivent se sentir blasphémés matin, midi et soir, en permanence. Les pauvres. Moi, je me mets à leur place, vraiment, les pauvres. Et vraiment, ces gens-là n'existent pas, hein, je vous rappelle. Ces gens-là n'existent pas. Hein. Ils sont tout petits. Déjà, les chrétiens qui pratiquent la religion sont peu nombreux. Et parmi ceux qui pratiquent la religion, les jusqu'au boutistes sont une minorité. Hein. Catholiques, traditionnalistes, etc. C'est un peu méprisable comme en termes de quantité de gens. Elon Musk a été offusqué. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un débat interne aux États-Unis entre l'alt-right et la gauche sur la place des symboles religieux, etc. Ma belle famille Aristo, très catho, a râlé sur le plan révolution, mais pas sur ça du tout. Donc, grave plus un. Non, mais bien sûr. Donc ouais, non, c'est, enfin voilà, il n'y a pas de polémique nationale. Hein. Il y a quelques personnes. Il y a quelques personnes qui s'offusquent, parce que de toutes les manières, elles s'offusquent de tout et de rien. Donc, il n'y a pas de sujet. Hein. Donc la cérémonie était-elle de gauche ? Ah, c'est une bonne question. Ah oui, c'est la question que j'ai mis dans le titre du stream. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était-elle une cérémonie de gauche ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on y a retrouvé les valeurs de la gauche? Est-ce qu'on a retrouvé un substrat culturel qui appartiendrait ou qui en tout cas serait revendiqué par la gauche? Rien n'appartient à personne, c'est certain, mais... Moi, je dirais que c'était une cérémonie libérale. Merci Sendo pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup, c'est généreux, merci à toi. Gauche parisienne. Ah ouais. La gauche parisienne qui défend les LGBTQIA+, pendant que la gauche provinciale défend les ouvriers, c'est ça? Tu peux expliquer ce que tu entends par libéral? Bah, le libéralisme en matière culturelle, en matière politique, en matière sociale. Alors déjà en matière politique, le libéralisme c'est la Révolution française, hein. La décapitation de Marie-Antoinette. C'était dans un moment de. C'était dans un moment de célébration des libertés. Ça s'est fait au nom de la liberté. Et ensuite, les libertés sur les questions, le libéralisme, encore une fois, sur les questions de défense des droits des femmes, déjà. Il y a eu une belle défense des grandes femmes de l'histoire de France et les droits des personnes queer, toutes les personnes queer, qui appartiennent aussi au champ de la défense des libertés. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme financier. Ah non, c'est pas la même chose. Le libéralisme est une école de pensée économique, mais avant d'être une école de pensée économique, c'est une école de pensée politique. Libéral dans ce sens, j'avoue que quand tu dis libéral, on pense un peu au libéralisme. C'est normal que tu penses au libéralisme quand je dis que c'est libéral. Et LVMH, bah encore une fois, oui, LVMH n'est pas seulement une entreprise privée. LVMH n'est pas seulement une entreprise privée, c'est aussi du patrimoine historique et du rayonnement français dans le monde entier. C'est un artisanat spécifique. Vous défendez bien la CGT du luxe, rassurez-moi. Les ouvriers qui bossent dans le luxe, vous les défendez? Vous voulez pas leur licenciement? Une fondation aussi, la fondation LVMH est une fondation, oui, oui bien sûr, qui intervient beaucoup dans l'art contemporain notamment. Leur reconversion. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc les ouvriers de LIP auraient pas dû fabriquer de montres. Ils auraient dû se barrer et trouver un autre boulot. C'est ça que tu dis? Non, mais très bien. Chacun sa gauche, hein. pour les impôts, mais chut.
Absolument.
Tu voles pas aujourd'hui ? Ah non, 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 aujourd'hui c'était cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quand l'émotion sera redescendue, on pourra refaire du Flight Simulator, promis, on se fera chier, on va se faire chier. Mais pas aujourd'hui. T'as pensé quoi de la critique de Marion Maréchal ? Ben non, on en parlait tout à l'heure, la critique de Marion Maréchal, elle s'inscrit dans un espace culturel, dans une pensée qui voit la France et sa culture de manière beaucoup plus conservatrice et rétrograde. Tout ce qui est ancien est beau, parce qu'il est ancien. C'est un peu le principe des passions tristes de l'extrême droite, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vomissent leur époque, qui détestent le monde dans lequel ils vivent. C'est pas les seuls, il y en a aussi à gauche. Mais il y a une manière d'extrême droite de se penser par rapport au monde qui consiste à dire que rien ne va, tout part à volo, tout est dans la logique de la décadence. Par exemple, c'est très intéressant la notion de décadence. Cette idée que le monde est par nature sur une pente et va vers sa finitude. Ce qui était avant était quand même vachement mieux. C'est exactement le discours d'Éric Zemmour. Pendant la campagne présidentielle, il a été très clair là-dessus. Hein. La France des années 50 et 60 est mieux que la France des années 2020. Donc on fantasme ce qui appartient au passé, on glorifie ce qui appartient à l'ancien, et on en fait un patrimoine gelé. Donc ce sont des gens, par exemple, qui ne veulent pas que l'artiste Jeff Koons expose des œuvres au château de Versailles. Parce que pour eux, le château de Versailles ne doit pas être un lieu d'accueil de la modernité, surtout pas. Ça doit être un lieu dans le formol du passé qui doit appartenir au passé et ne se satisfaire que du passé. Donc vous voyez, c'est cette manière-là. Et donc effectivement, ces gens-là, quand ils voient le queer, quand ils voient des personnes queer être valorisées, symbolisées à l'occasion d'une cérémonie qui met en avant la France dans le monde, ça les choque. Parce que pour eux, ça c'est pas la France, ça c'est la décadence. L'extrême droite a aussi un mot qu'ils utilisent moins maintenant, mais qui est assez intéressant, c'est le mot de... Merde. Ah putain, dans les grandes villes, dans les grandes capitales européennes... C'est pas la décadence, c'est le fait que tout le monde se mélange. Le cosmopolitisme, voilà, le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme est un truc que l'extrême droite historiquement déteste parce qu'il est une corruption de la nature. Le cosmopolitisme, l'internationalisme évidemment de la gauche, c'est cette manière qu'ont les élites dans les grandes villes de se mélanger les unes aux autres, d'apprécier la nouveauté, la diversité et la différence. Tout ça, ça donne de la dégénérescence, ça donne l'homosexualité, ça donne... les transgenres, évidemment, ça donne une certaine culture de la décadence, etc. C'est la dénonciation du cosmopolitisme, c'est évidemment c'est la lutte contre le mélange. Et c'est l'idée que, alors c'est une idée historiquement raciste, hein, c'est l'idée que par le mélange, le sang se détériore. Quand il y a des mariages mixtes, ça détériore le sang et tout. C'est aussi évidemment antisémite par nature, la lutte contre le cosmopolitisme, parce que qui sont les juifs, si ce n'est les cosmopolites ultimes ? Eux qui sont une diaspora, qui n'ont pas de terre, c'était avant la création de l'État d'Israël, ce peuple apatride, qui se mélange aux populations dans les grandes villes, etc. Alors que dans les campagnes, évidemment, c'est connu, on est bien blanc. On est poli, on est chrétien et on baise uniquement en missionnaire. Voilà, c'est cette espèce d'idée, de cette opposition d'une espèce d'essence pure de la terre, de l'agriculture. D'ailleurs, c'est ce que disait Philippe Pétain, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Ça, c'est intéressant comme phrase. Parce qu'on est justement dans cette glorification du rapport à la terre, de l'agriculteur, du bon français, honnête, par rapport... à celui des villes, malhonnêtes, corrompues, cosmopolites.
Donc vous voyez un peu cette, ce mode de pensée de l'extrême droite, c'est cette manière un peu dans le formol de penser la gloire de la France. Pour eux, la gloire de la France, c'est Napoléon. C'est Louis XIV. C'est pas Gisèle Halimi. C'est pas Aya Nakamura qui vend des albums dans le monde entier. La gauche, terre de l'Aziz. Alors, au sein de la gauche aussi, il y a eu des débats pendant très longtemps. Hein. Vous savez qu'au sein de la gauche, tout le monde n'est pas de la gauche de la même manière. Et il y avait à une époque, notamment, c'est un peu beaucoup moins le cas aujourd'hui, les gens qui étaient en mode class first, les syndicalistes, les gens de la CGT, les gens du Parti communiste, qui disaient « On est d'abord défini par sa classe avant d'être défini par autre chose. » On va arrêter avec vos histoires de genre, vos orientations sexuelles, tout ça, c'est des conneries vulgaires, bourgeoises et citadines, parce que l'ouvrier, lui, il est hétérosexuel. Et il est blanc. Donc arrêtez avec vos conneries d'antiracisme, on n'a pas le temps à perdre, c'est pas prioritaire. Il y a un super film que vous pouvez regarder qui s'appelle We Want Sex. We Want Sex est un film qui raconte la bataille des femmes au Royaume-Uni pour l'égalité salariale et qui montre comment elles ont dû se battre contre les syndicats. Parce que les syndicats, c'était que des mecs et ils disaient, écoutez, vous êtes gentils, les bonnes femmes avec vos histoires de salaire, mais c'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est la révolution ouvrière et on verra les histoires de gonzesses plus tard. We Want Sex Equality. Alors, je croyais que le titre du film avait été réduit à We Want Sex, mais ok, c'est We Want Sex Equality. Super film. Et donc, il y a eu, pendant un temps, à gauche, ce genre de réflexe qui consiste à dire que l'homosexualité, c'est un truc de bourgeois. Voilà. Les trucs contemporains, c'est des trucs de bourgeois. Et la classe ouvrière, elle est pure, elle est normale. Elle se pose pas ces questions-là, puisqu'elle n'est définie que par ses qualités matérielles. C'est marrant. Non, pardon, c'est complexe. C'est plus complexe que ça, bien sûr que c'est plus complexe que ça. Là, je vous fais la version courte, hein. Il y a des gens, ils voient les queers et ils se disent c'est des bourgeois, alors que les personnes queers, on les connaît parmi les plus pauvres. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais de tout temps, hein. Il y avait des gens de gauche qui pensaient que l'homosexualité, c'était un truc de droite, hein. C'est un truc de bourgeois, c'est un truc de libéral. On en revient. Quand on est de gauche, on est ouvrier, on est hétéro et on baise en missionnaire. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est une espèce de réflexe, une espèce d'essentialisation ouvrière un peu gênante, qui a largement disparu aujourd'hui, heureusement. Des préoccupations de gens qui ont le loisir de penser à ça. Oui, c'est aussi ça. Oui, c'est aussi ça. T'as raison. Oui, t'as raison. Les personnes qui se mobilisent pour la défense des droits homosexuels sont des gens qui ont que ça à foutre. C'est donc que c'est pas des ouvriers. S'ils étaient des ouvriers, ils défendraient d'abord les augmentations de salaire avant de penser à ces histoires de mœurs. Il y a un peu ça avec l'écologie. Ça dépend. Non, l'écologie... Non, alors maintenant, les combats écologiques ont été embrassés par une très large partie de la classe politique à gauche, parce que assez vite s'est fait la jonction entre critique du capitalisme et critique du système productiviste qui pollue. Alors, il y a encore des débats à gauche, hein, quand même, sur la place de l'écologie par rapport à la lutte anticapitaliste. Est-ce que la fermeture d'une usine automobile est une bonne nouvelle ? Voilà. Ce genre de questions. Ça dépend des automobiles. Et bah si je te dis par exemple des automobiles Ford. Ford, entreprise américaine qui produit des moteurs thermiques, des pick-up, etc. Alors, ils ne produisent pas des pick-up en France, mais qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle la fermeture d'une usine Ford qui produit des voitures qui polluent ? Si la réponse est oui. Alors pourquoi tu t'opposes à Philippe Poutou ? Tu veux le licenciement de Philippe Poutou ? Tu veux que Philippe Poutou perde sa grève ? C'est quand même grâce à Philippe Poutou qu'on a toujours des voitures Ford produites en France. Parce qu'il a réussi sa grève. Je veux des voitures Poutou. Bon courage. Il n'avait pas été licencié. Si, il avait été licencié, mais il avait quand même fini par le mouvement de grève qu'il avait initié avait réussi à maintenir la production Ford en France. On veut des Poutou mobiles. Du coup, c'est une cérémonie de gauche ou pas ? Ben écoute, on en discute, hein, c'est à toi de me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu penses qu'il peut exister un éco-capitalisme ? Celui théorisé par Paul Okane. J'ai jamais lu Paul Okane, je sais pas. Mais oui, il y a des personnes qui défendent un système économique basé sur l'économie de marché, dans lequel il y a des opportunités. Il y a l'innovation et qui émet le moins de CO2 possible. C'est Emmanuel Macron. C'est typiquement le macronisme. C'est typiquement la loi climat, la loi climat-énergie, etc. Maintenir la capacité de production, transférer vers de l'énergie propre, pour ce qui pollue, mais pas sortir du capitalisme. La fameuse croissance verte, exactement la croissance verte. Imaginez un monde dans lequel il y a des entreprises qui produisent, qui fabriquent des biens, des services non polluants et qui sont quand même dans une croissance. Greenwashing. Non, tu ne connais pas le sens de ce mot. Greenwashing est la pratique utilisée par des entreprises pour faire croire qu'elles ont des démarches écologiques alors que ce n'est pas le cas. On a le droit de pas y croire. Évidemment qu'on a le droit de pas y croire. Bien sûr. D'ailleurs, pour moi, un peu abusé, passez votre stream en 160p en audio seulement. Ouais, c'est vrai. Y a-t-il un pays qui ne pratique pas le capitalisme aujourd'hui et qui s'en sort bien ? Définis s'en sortir bien. Voilà. Définis ce que tu en... Tiens, c'est intéressant ça d'ailleurs, ça veut dire quoi bien s'en sortir ? Cuba ? Cuba ? Le meilleur moment dans la vie à Cuba, c'est quand tu quittes Cuba. C'est un dicton des réfugiés cubains exilés. Cuba, c'est assez... j'ai eu la chance de voyager à Cuba. C'est assez terrifiant, hein, Cuba. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'armée qui possède la plupart des, des pans de l'économie. Hein. J'y vais en septembre. Bah, vas-y, profite. Hein. C'est un pays extraordinaire, Cuba. Mais profite-en pour te renseigner sur l'histoire cubaine. L'histoire coloniale, elle est passionnante, mais aussi l'histoire contemporaine. C'est fascinant comme pays, Cuba, c'est extraordinaire. Je préfère un peuple moral en accord avec ses valeurs plutôt qu'un peuple riche, dépravé moralement et sans valeur. Ok. T'as dû passer une mauvaise soirée hier soir, toi. J'en suis navré. Le problème du communisme, Vietnam-Cuba, c'est que les États-Unis ont harcelé les populations pour faire de l'ingérence et qui amène des embargos et une place trop importante pour l'armée. Ouais, alors, c'est un peu la thèse de le communisme, si ça marche pas, c'est à cause des Américains, qui a longtemps été défendu. Ça a été longtemps un argument, en Union soviétique d'ailleurs. Désolé si vous n'arrivez pas à bouffer à votre pain, c'est à cause des Américains, parce qu'ils sont méchants, et c'est de leur faute, parce qu'ils sont méchants. Puis bon, le mur a fini par tomber et les gens ont fini par se dire bon, on peut le dire maintenant, c'était pas ouf comme système. Le paradis des travailleurs pour les travailleurs qui n'y travaillent pas. À cause des traîtres aussi. Oui, à cause des traîtres. Alors ça, c'était encore avant, c'était dans les époques... Dans les années Staline, qui disait « si l'industrie ne marche pas, c'est à cause des saboteurs. C'est à cause des gens non communistes qui sabotent les usines, et c'est de leur faute si vous n'avez pas de chauffage cet hiver, madame. » Et ça a duré longtemps, cette histoire, hein. Si le communisme n'a pas marché, c'est parce que ça n'a pas fait assez de communisme. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça en est où cette histoire avec la SNCF? C'était quand même dingue, hein? L'enquête a progressé ou pas? Il y a eu des arrestations qui ont été faites? Parce que le sabotage de la SNCF, c'était quand même dingue. Parce que de ce que j'ai vu, c'était des camionnettes avec des mecs à l'intérieur qui sont mis à des points très précis pour saboter les câbles de manière simultanée. Quand même, c'est une attaque un peu vénère. C'est l'extrême gauche? Ah bon? Je croyais que c'était. Décidément, ils ont un truc avec la SNCF. Mais c'est revendiqué? Ah, ok, il y a eu un mail de revendication. D'accord. Ok, intéressant. Faut que je regarde un petit peu. Ouais, non, je sais pas, faut que je m'intéresse un peu à ce truc-là, mais ouais, c'est quand même assez spectaculaire. Enfin, je veux dire, la veille de la cérémonie d'ouverture, une panne informatique provoquée par une espèce d'opération coordonnée de plusieurs personnes à différents points du territoire. Enfin, t'es en mode, oula, attends, c'est un peu vénère. L'enquête a rien dit du tout sur l'extrême-gauche. Bon, bah écoutez, l'enquête progressera.
Si le capitalisme nous détruit et que le communisme ne marche pas, on fait quoi? Va falloir que tu fasses un effort d'imagination. Sûrement les automobilistes. Ouais, sûrement des automobilistes anti-TGV. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'infos sûres. Ouais. Bref. C'est un coup d'Air France. On invente le nouveau communisme libéral. Ah bah vous serez ni les premiers ni les derniers, mais allez-y, essayez d'inventer un système communiste qui respecte les libertés individuelles. T'y mets pas du tien aussi. Ah non non, j'y mets pas du mien. Ah non non, mais là vous avez bien remarqué hein. On est samedi, il est 19h, moi je mets plus rien dans rien. T'es plus en vacances ? Bah si, je suis en vacances. C'est quoi l'anarchisme concrètement ? Il y a un documentaire d'Arte sur le sujet en plusieurs épisodes et il y a un podcast de Philippe Collin en plusieurs épisodes. Non, pas de Philippe Collin, de Thomas Legrand. De France Inter sur l'histoire de l'anarchisme, je t'invite à regarder les deux, c'est passionnant. Je vais m'arrêter là les amis, il me reste à vous remercier du fond du cœur d'avoir été avec moi pour ce petit débrief de cette émouvante cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je vous fais des bisous, je sais pas si je vous retrouve demain, si vous êtes sages. Mais on refera du Flight Simulator. Je rappelle, c'est les vacances, on fait voler des avions. Hein. On est entre nous, on est peinards. J'ai acheté la TR d'ailleurs. Je l'ai testé hier, c'est très cool. Bisous à toutes et à tous. Passez une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir été là, c'était cool. Ciao, ciao.